Bonsoir, bonsoir et bienvenue à ce débat donc ouvert à tous ici à l'Espace Mendès France. On remercie l'Espace Mendès France, on remercie également l'association Jeanne Malve qui est organisatrice de ce débat. Débat qui a pour thème « Je m'interroge sur la fin de vie, quels sont nos droits ?» à l'occasion de la 8e année de la Journée mondiale des soins palliatifs qui avait lieu le 12 octobre dernier. Ce soir, il s'agit bien donc d'un débat, pas d'une conférence. C'est pour ça que vous n'allez pas avoir un alignement de personnes qui vont vous parler pendant des heures. Ils vont être là pour répondre à vos questions, à vos interrogations. Vous pourrez bien sûr poser la question que vous souhaitez. Je viendrai vers vous. Je vais vous expliquer ça dans un instant. C'est une réunion d'information, pas une réunion polémique. Nos intervenants sont là donc pour répondre à vos interrogations sous forme de questions à la fois orales. Donc il suffira tout simplement de lever la main et moi je viendrai vers vous. Il y aura aussi une hôtesse qui va venir m'aider. Il y a aussi la possibilité d'écrire si vous êtes timide, si vous n'avez pas envie de parler dans le micro, ce que je peux comprendre aussi. Vous avez donc des papiers théoriquement. Vous levez la main aussi si vous voulez des papiers. Nathalie qui est là vous distribuera des papiers. Voilà, vous n'hésitez pas, vous écrivez le plus lisiblement possible. Merci pour moi, j'ai une toute petite vue. Donc voilà, pour que je puisse bien vous lire et je donnerai votre question. Pour démarrer la soirée, je vous propose tout de suite de donner la parole à la présidente de l'association qui est donc à l'origine de cette soirée. Je vous propose d'accueillir donc Anne-Catherine Riss, la présidente de l'association Jeanne Malve.
Bonsoir à toutes et à tous. Les bénévoles de Jeanne Malve sont heureux de vous accueillir et nous vous remercions de votre présence. L'organisation de cette soirée se fait en partenariat avec l'Espace Mendès France. Et nous remercions chaleureusement Madame Guiton et l'ensemble du personnel. Nos remerciements vont également à Francky Dardard, journaliste qui sera le régulateur de ce débat. Se sont excusés Madame la députée Catherine Coutel, Monsieur Alain Claise, député maire de Poitiers, représentant par Madame Fagé-Lapri, qui nous honore de sa présence. La société actuelle jette souvent sur la personne en fin de vie, malade ou atteinte par le grand âge, un regard qui la dévalorise, l'isole et donc aggrave sa souffrance. Jeanne Malve défend le respect de la personne humaine jusqu'à la mort. C'est un mouvement qui s'appuie sur trois valeurs fondamentales. La dignité, le respect de la vie, la solidarité. Jeanne Malve est un mouvement associatif laïque, non confessionnel, non politique. Jeanne Malve mène des actions citoyennes en créant des liens de solidarité, en sensibilisant les concitoyens sur le droit des malades et la problématique de fin de vie. La Fédération Jeanne Malve œuvre en partenariat avec la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs. Elle est en lien avec chaque association régionale. Elle oriente notre mouvement et nous soutient dans nos actions. Le site internet de la Fédération est jeannemalve.org. Jeanne Malve fonctionne grâce à ses bénévoles et aux adhésions. Pour devenir bénévole, il faut avoir un peu de temps libre, avoir le souci des autres et avoir le goût d'une vie associative. Souhaiter une société plus humaine et plus solidaire. Pour adhérer, il vous suffit de remplir le bulletin qui est en votre possession et y joindre votre adhésion. Le site internet de Jeanne Malve Poitiers est jeannemalve-poitiers.com. Je vous remercie et je vous souhaite une agréable soirée.
Merci, Madame la Présidente. Alors, juste une précision, l'intérêt des micros, ce n'est pas juste pour faire semblant comme si on était à la télévision, c'est simplement parce que toute la soirée de ce soir va être enregistrée par l'équipe technique de l'Espace Mendès France, que l'on salue au passage. Et donc, c'est pour que le son soit parfait, que vous puissiez ensuite réécouter. Je vous donnerai à la fin de ce débat tous les endroits où vous allez pouvoir réécouter. C'est-à-dire que s'il y a des points qui vous intéressent, si vous avez envie de vous remémorer tout ce qui a été dit, vous pourrez le faire, entre autres sur le site de l'Espace Mendès France, mais aussi sur différents sites que je vous donnerai tout à l'heure. Je vous propose maintenant de regarder un petit film d'une quinzaine de minutes qui a été réalisé en 2011 par la Fédération Jeanne Malve, qui compte donc un peu plus de 70 associations à travers la France et le monde. Je vous propose donc de regarder ce film. Alors ça va démarrer, les essais ont été faits. Tout fonctionne bien, je vous promets.
Je viens d'aller à l'hôpital voir ma mère, j'ai appris qu'elle avait un cancer. J'ai vu le médecin, il m'a dit qu'il ne pourrait rien faire pour elle. J'ai peur qu'elle souffre, je ne sais pas comment ils vont traiter sa douleur, et je sais que c'est irrémédiable. C'est terrible à dire, mais à la limite, j'aimerais que ça aille vite.
En tant qu'infirmière et aide-soignante, et travaillant dans une unité de soins palliatifs, on peut témoigner que vraiment aujourd'hui on a les moyens de soulager les patients en fin de vie.
Il est vrai que parfois c'est difficile et on a alors recours à des équipes spécialisées comme les unités de soins palliatifs. Il faut savoir qu'aujourd'hui le traitement de la douleur est une obligation et non une possibilité. On ne devrait plus voir de patients mourir avec des douleurs insupportables. Nous, équipes soignantes, sommes convaincus qu'il y a toujours mieux à faire que d'abréger la vie de celui qui souffre.
J'ai passé toute ma carrière professionnelle à faire du syndicalisme, donc à aider tous ceux qui étaient dans le besoin chaque fois qu'il le fallait. Maintenant, mes enfants sont partis aux quatre coins du monde, ma fille est en Australie, mon fils au Canada. Ma femme est morte il y a quelques années et j'appréhende avec énormément d'angoisse la fin de ma propre vie.
L'accompagnement des personnes jusqu'au terme de leur vie, c'est un des fondements de notre civilisation et qui exprime les valeurs profondes d'une société. C'est donc un devoir d'humanité qui incombe à chacun de nous. L'accompagnement des personnes en fin de vie est donc l'affaire de tous. En premier lieu, c'est l'affaire de la famille, de l'entourage, des amis, des proches. C'est bien sûr l'affaire des professionnels de santé. L'accompagnement fait partie intégrante du soin. Et c'est aussi l'affaire de la société tout entière. En France, avec le vote de la loi de juin 1999 sur les soins palliatifs, l'accompagnement des personnes en fin de vie et de leurs proches est devenu un impératif. En dédiant un article au bénévolat d'accompagnement, cette loi républicaine, qui a été votée à l'unanimité, je le rappelle, pose un acte symbolique fort puisqu'elle officialise aux côtés des familles et des proches, aux côtés des professionnels de santé et en complémentarité avec eux, elle reconnaît la pleine et entière utilité, la pleine et entière responsabilité de la société dans le prendre soin des personnes en fin de vie. À ce jour, en France, nous sommes plus de 5000 bénévoles d'accompagnement appartenant à des associations qui assurent formation et encadrement et qui témoignons de cette démarche de solidarité humaine citoyenne en offrant une présence, une écoute bienveillante auprès des personnes en souffrance qui le souhaitent, quel que soit leur âge, leur situation ou le lieu où elles se trouvent. C'est une démarche laïque qui s'exerce en partenariat étroit avec les professionnels de santé et qui contribue, comme le dit la loi, à conforter l'environnement psychologique et social de la personne gravement malade et de ses proches. Le bénévolat d'accompagnement, c'est notre manière d'agir au cœur de la société pour la rendre plus humaine et plus solidaire vis-à-vis des plus vulnérables d'entre nous. C'est notre manière à nous d'exercer notre citoyenneté.
Moi, les médecins me font peur. J'ai l'impression qu'ils s'acharnent sur les malades pour les maintenir en vie à tout prix, alors que franchement, il faudrait arrêter les frais. Des fois, ils les réaniment, et pour moi, tout ça n'a pas de sens.
Pratiquer ce qu'on appelle l'acharnement thérapeutique, c'est interdit par la loi d'avril 2005. C'est interdit pour tout médecin. Ça veut dire que l'on n'a pas le droit de s'acharner à réanimer quand ça n'a pas de sens. On n'a pas le droit de maintenir artificiellement en vie. Et quand on est dans des services d'urgence, de réanimation ou de SAMU, oui, chaque jour, on est confronté à des situations très complexes. La loi et l'esprit de la loi est venu vraiment bousculer nos pratiques. Elle est venue nous sensibiliser à des situations complexes qui étaient mal gérées avant. Et aujourd'hui, nous sommes beaucoup plus sensibles à aller voir nos confrères, à aller échanger avec ceux qui connaissent mieux le malade, aller auprès des familles pour savoir quelle retenue avoir et quel geste juste avoir vis-à-vis du patient pour être toujours dans un soin qui est celui de l'intérêt du patient. Soigner, c'est aller vers le patient avec justesse dans le soin. Et les urgentistes, les réanimateurs sont confrontés à cette situation et sont sensibles plus que jamais à cette situation. La loi est venue bousculer nos esprits vraiment dans l'intérêt du malade plus que jamais. Et c'est un travail qui se fait aussi dans les services de réanimation, aussi dans les services d'urgence et de SAMU, parce que ça a du sens et parce que c'est au cœur du soin et dans l'intérêt du patient.
Déjà aujourd'hui, on est un handicap pour la société. J'ai toujours peur d'être une charge pour mes proches. Et si un jour ça venait à se dégrader, je crois que j'aurais du mal à supporter d'être encore plus une charge pour eux et pour cette société. Je demanderais peut-être à partir vite.
Cette peur d'être une charge, d'être un poids pour les proches, c'est une peur qui est exprimée extrêmement fréquemment, pour ne pas dire constamment, par les patients à un moment ou un autre de leur maladie. J'allais dire que c'est une crainte qui est tout à fait naturelle et il est important un peu d'en comprendre les différents niveaux. Le premier niveau, c'est l'expression de l'amour qu'on a pour ses proches. Quand on est malade, on n'a pas envie de faire du mal aux gens qu'on aime le plus, on n'a pas envie de leur coûter. La deuxième, c'est plus un appel à travers cette peur d'être un poids, c'est aussi le besoin d'être rapidement détrompé. Ben non, évidemment, tu n'es pas un poids. Y a une réassurance qui est attendue une fois qu'on a exprimé cette peur. Puis le troisième niveau, il est très matériel. On sait que vivre avec une maladie grave, c'est coûteux financièrement. Il y a des soins, notamment au domicile, qui ne sont pas totalement remboursés. Et puis c'est coûteux psychologiquement. On sait que la prise en charge d'un patient au domicile repose sur l'investissement, l'implication de l'entourage. Et donc il est absolument indispensable de rappeler que la mission des soins palliatifs, elle est précisément dans cet accompagnement au long cours du patient et de sa famille, dans un accompagnement qui doit à la fois répondre aux besoins matériels et à la fois soutenir ses besoins émotionnels, prévenir, empêcher que cet épuisement n'apparaisse dans le temps en proposant des solutions alternatives. Tout un tas de mesures, de moyens, de soutien qui sont possibles pour empêcher ce genre de difficultés et donc répondre à ce besoin du patient, à cette crainte du patient d'être une charge. Dans tous les cas, je dirais, le message reste le même, le cœur du message reste le même, c'est en réponse à quelqu'un qui a le sentiment de peser sur son entourage, il est de notre devoir, que c'est là que se manifeste véritablement la solidarité humaine, que de dire tu continues d'avoir ta place parmi les vivants.
Pendant ma vie, j'ai essayé de vivre dignement. Je voudrais pouvoir terminer aussi debout, responsable, dans la dignité. Je ne voudrais surtout pas terminer comme un légume. Et j'aimerais bien, s'il le faut, que les médecins fassent le nécessaire, comme on dit.
Chacun d'entre nous n'a pas envie de mourir dans des conditions qui porteraient atteinte à sa dignité. C'est le moins que l'on puisse attendre, bien entendu. Mais que veut dire dignité ici ? Est-ce que ça veut dire, conformément à ce qui est écrit au fronton de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, que nous avons une valeur intrinsèque liée à notre personne dès lors que nous sommes des êtres humains? Oui, c'est cela le sens premier, prioritaire, bien entendu. Est-ce que ça veut dire, parce qu'il y a un autre usage du mot de dignité, que nous perdrions un peu cette valeur humaine, cette qualité de personne humaine, dès lors que nous ne serions pas capables d'être performants dans tous les secteurs de l'existence, dès lors que nous aurions de nous-mêmes une idée un peu dégradée et même très dégradée de nous-mêmes? Et puis, il y a encore pire que cette dévaluation de la notion de dignité, c'est lorsque c'est autrui qui décide que je garde ou je perds ma dignité. Mais nous voyons bien que ce premier sens qui renvoie à la Déclaration des droits de l'homme et qui dit que chaque être humain a une valeur intrinsèque qui lui est liée dès lors qu'il est un humain, nous voyons bien que cette définition-là ne peut pas se conjuguer avec la deuxième définition qui consisterait à dire qu'on serait plus ou moins digne en fonction de telle ou telle situation qui se présente à nous. Qu'est-ce que nous voulons quand nous sommes en fin de vie? Nous voulons être respectés, nous ne voulons pas souffrir, et nous avons bien raison, et nous ne voulons pas que l'on nous prolonge de façon indue. Mais est-ce que vraiment nous souhaitons que la société aille dans le sens d'une légalisation, d'une nouvelle liberté? Que serait cette liberté qui, ici, mettrait en péril jusqu'à la notion même de soin que nous nous devons les uns aux autres?
Moi, je suis responsable sportif et surtout, je m'occupe d'une équipe de jeunes. Parce que j'essaie de leur expliquer beaucoup de choses et surtout le fair play. Et le respect des autres. Par contre, les médecins ne nous disent pas grand-chose, ils nous racontent souvent des histoires et ils ne tiennent pas souvent compte de ce que veut vraiment le malade. Moi, si je tombe gravement malade, je tiens vraiment à ce qu'ils me disent toute la vérité et qu'on tienne compte de mes décisions après qu'on en ait parlé ensemble.
Je crois qu'il ne faut pas avoir peur d'une vérité qui serait cachée, puisque précisément la loi prévoit que le médecin ait l'obligation d'informer la personne malade, de, d'ailleurs ce qui la concerne au premier chef. On est précisément en train de changer de registre avec cette loi. On passe d'une époque où le médecin décidait pour autrui de ce qui lui semblait bon à une période, la période actuelle, où le médecin doit informer le principal intéressé afin que celui-ci puisse se déterminer quant au choix qu'il souhaite faire sur la poursuite ou l'arrêt d'éventuels traitements qui lui seraient proposés. La loi va même plus loin, puisqu'elle prévoit, dans un souci du respect de la personne à ce point vulnérabilisée qu'elle ne pourrait donner son avis, de prendre en compte ce que l'on appelle les directives anticipées, c'est-à-dire des directives qu'une personne aurait écrites préalablement à la situation dans laquelle elle se trouve et qui indiqueraient là où elle souhaite aller et ne pas aller. La loi impose également de prendre en compte l'avis de la personne de confiance, la personne qui aurait été chargée par la personne malade préalablement de devenir son porte-parole, en quelque sorte, en cas d'incapacité d'exprimer sa volonté. Et puis, la loi ajoute que pour décider à la place d'une personne qui ne peut donner son avis, il faut en plus une discussion collégiale, c'est-à-dire croiser les regards différents des gens qui sont concernés par les soins et les traitements, de manière à être au plus près possible de ce que la personne aurait souhaité que l'on fasse ou que l'on ne fasse pas pour elle. Vous voyez donc qu'on est a priori à l'opposé de cette crainte que vous formulez d'être mis à distance de ce qui concerne le principal intéressé. Au contraire, la loi impose que le médecin, les soignants, les équipes soignantes soient au plus près de l'information la plus juste pour que la personne puisse se déterminer.
Pour moi, manger, c'est important. Mais mon mari, à la fin, il ne pouvait plus manger. J'avais beau essayer de forcer, il ne pouvait pas. Et c'est quand il a commencé à ne plus vouloir boire que là, j'ai demandé au docteur, vous pouvez pas faire quelque chose, vous devez faire quelque chose, vous pouvez pas laisser mourir de soif. Faites-lui une perfusion. Et c'est vrai, quoi, de nos jours, on peut pas laisser quelqu'un mourir de soif, n'est-ce pas?
Sur la crainte que peuvent avoir les gens qu'en fin de vie, on meurt de faim et de soif, je crois qu'il faut essayer d'être clair. Quand on n'a pas faim, on ne peut pas mourir de faim. Et si on leur apporte une nutrition artificielle, soit par le biais d'une perfusion, soit par le biais d'une sonde dans leur estomac, non seulement on ne leur fait pas du bien, mais parfois les calories qu'on va apporter, elles vont davantage profiter à la tumeur qu'au malade lui-même, et on n'empêchera pas qu'il soit dénutri. Pour mourir de soif, il faut avoir soif. Et on sait que les patients en fin de vie n'ont pas la sensation de soif. Donc ils ne meurent pas de soif. Si on leur apporte une hydratation artificielle, une perfusion, comme on dit, eh bien, parfois, on leur fait plus de mal que de bien parce que ça va aggraver les syndromes d'inconfort comme l'encombrement. Donc, ce qu'il faut quand quelqu'un a la bouche sèche et qu'il est en fin de vie, c'est lui faire ce qu'on appelle des soins de bouche, des soins de bouche qui hydratent la muqueuse buccale. Ça peut être fait par les professionnels de santé, bien sûr, ça peut aussi être fait par les membres de la famille. Et ça, c'est véritablement un soin qui apporte du confort, qui fait que la personne en toute fin de vie n'a pas une sensation désagréable. Donc, sur cette espèce de crainte, de peur qui existe, qu'on pourrait laisser les gens mourir de faim, mourir de soif, je crois qu'il faut vraiment considérer que cette idée est une idée fausse et chacun doit en être aujourd'hui convaincu.
Ma grand-mère, je l'adorais, c'était une super mamie. Les derniers jours à l'hôpital, j'arrivais plus à aller la voir. J'avais l'impression qu'elle était déjà morte. Je voulais pas qu'elle meure. Mais j'avais envie que les médecins fassent quelque chose pour qu'elle meure plus vite.
L'approche de la mort d'un être cher déclenche des émotions, des réactions complexes et contradictoires. Le désir que cesse l'agonie est souvent exprimé par les proches des patients en fin de vie. Il ne signifie absolument pas une absence de sentiment d'affection de ses proches envers ces personnes en train de mourir. Mais ce désir, qui peut s'entendre comme un désir d'euthanasie, ne doit surtout pas être pris au mot par les professionnels de santé, car leur mission n'est certainement pas d'aider ces personnes à mourir plus vite. Par contre, ils ont pour mission de les accompagner jusqu'au bout, sans acharnement, sans oublier d'accompagner aussi leurs proches qui souffrent de ce deuil qui les touche.
La mort, moi, ça me fait peur. Je pense vraiment qu'il faudrait changer la loi pour laisser à chacun la liberté. La France, c'est le dernier pays où on ne peut pas choisir comment on veut mourir. Et pour moi, j'ai envie de choisir comment je veux mourir.
Ce témoignage nous interpelle, bien sûr. Chacun veut exprimer sa volonté et librement. Le problème, c'est que cette volonté est exprimée à un moment où la personne va bien. Et notre expérience de professionnel montre qu'une personne qui est en fin de vie et qui de plus souffre n'est plus dans une situation de choix libre. Pour ce qui est de la loi, la France n'est pas le dernier pays à ne pas avoir légiféré sur l'euthanasie. Il n'y a que 3 pays au monde qui ont légiféré. Par contre, la France dispose d'une loi qui est la plus élaborée qui soit au monde, datant de 2005, et cette loi satisfait actuellement l'ensemble des professionnels qui travaillent auprès des personnes en fin de vie. En gros, il faut retenir 4 droits qui sont très importants et qui ont été obtenus au cours de cette loi. Le premier, c'est l'interdiction de l'acharnement thérapeutique pour les médecins. La deuxième chose, c'est qu'elle oblige le médecin à soulager la douleur. Le troisième élément, c'est que elle oblige à respecter la volonté du patient. Un patient peut exprimer son souhait d'arrêter les traitements, certains traitements, tous les traitements. Il peut l'exprimer à l'avance, c'est-à-dire que soit il est conscient et il l'exprime directement, et on écoute son souhait à ce moment-là, soit il n'est plus en capacité de s'exprimer, et il aura pu le faire à l'aide de directives qu'il aura écrites à l'avance, ou à l'aide d'une personne de confiance ou quelqu'un de son entourage. Donc, le médecin doit expliquer la conséquence de l'arrêt de ses traitements, mais doit respecter la volonté du patient. Le dernier élément, c'est le développement des soins palliatifs et de l'accompagnement, qui est aussi prévu dans cette loi. Donc vous voyez qu'il existe actuellement une loi, qui est une loi qui pour nous est d'avant-garde. Elle est mal connue en France, il faut encore du temps, il faut qu'on la fasse connaître. Pour nous, les progrès ont été énormes depuis 30 ans. Il y a 30 ans, on avait peu de moyens de soulager la douleur. L'euthanasie n'est pas du tout une réponse aux personnes en fin de vie, et que la question actuelle est plus, pour nous, les conditions de soins que nous offrons aux personnes en fin de vie, particulièrement les personnes très âgées ou celles qui sont atteintes de grands handicaps avec une vulnérabilité énorme.
Voilà, sachez que toutes les associations Jalmalv de France organisent autour de ce film donc des débats comme on va faire ce soir. Voilà ce qui explique votre présence donc aujourd'hui. Je vais en profiter pour remercier une nouvelle fois la présidente de l'association, Madame Riss, ainsi que ses 30 bénévoles actifs, un petit peu plus, et puis les autres bénévoles évidemment qui tournent autour de cette association, et celles et ceux aussi qui vont répondre à vos questions maintenant. Donc je vais les appeler ici, ils vont venir nous rejoindre. Je vais même faire une petite installation, vous allez voir en direct, je suis magicien, vous n'avez rien vu. Hop, là, voilà. La première personne que je vais appeler sur scène, donc, c'est l'équipe de l'unité de soins palliatifs, le docteur Laure Percheron, médecin assistant en soins palliatifs, qui va venir nous rejoindre. Suivi également de Catherine Boisseau, cadre de santé en soins palliatifs. Également Nadine Poupin, Françoise Guinaud, infirmière à l'unité de soins palliatifs. Jacqueline Delage, aide-soignante à l'unité en soins palliatifs. Le docteur Isabelle Mijon-Dubalet, médecin généraliste au CHU de Poitiers. Et Annie Assimon, bénévole accompagnante à l'association Jalmalv. Et Louis Frappereau, bénévole actif également à l'association Jalmalv. Voilà. Tous les intervenants sont donc sur scène, enfin sur le podium, on va dire, prêts à répondre à vos questions. Alors, au niveau de l'organisation, deux petites choses. La première, je vous demanderai, je l'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, si vous pouvez d'éteindre vos téléphones portables, ou en tout cas de les mettre sur vibreur, afin que... Voilà, rapprochez-vous, oui, tout à fait. Voilà, je vous donne un micro pour tous les deux. Donc de bien éteindre ou mettre sur vibreur vos téléphones portables. N'oubliez pas que vous avez plusieurs solutions pour poser vos questions, soit par écrit, soit par oral. Il suffira pour cela de lever la main. Voilà. François Hollande l'a affirmé le 1er juillet dernier, il y aura sans doute en fin d'année un projet de loi qui sortira fort de tout ce qui aura été dit et précisé à l'occasion de cette réflexion nationale. Le débat est donc lancé et il est nécessaire, vous l'avez compris aujourd'hui, de se poser les questions. Qu'est-ce que la loi prévoit aujourd'hui? Quelle est la position du corps médical et du corps du soignant? Les volontés de la personne sont-elles prises en compte par les équipes médicales et soignantes? Voilà quelques-unes des questions essentielles que vous posez sûrement. Et la première question, je vais vous la poser. Alors, pour répondre, vous avez deux micros, donc je vous demanderai de vous les passer. Vous avez la possibilité d'être plusieurs à répondre évidemment à cette question. Avant de vous donner la parole, c'est une question plutôt générale. Je vous rappelle, question écrite ou question orale, vous n'hésitez pas. Est-ce que, et c'est ma première question s'il vous plaît, est-ce que les gens que vous rencontrez ont peur de mourir ou peur de souffrir avant de mourir? Je sais que la question est générale, mais c'est un peu fait exprès. Qui veut répondre? Ne vous battez pas.
Bonsoir. Alors, c'est une question très très large. C'est difficile de faire une réponse et une réponse unique à ce genre de questions qu'on a régulièrement.
Justement parce que vous l'avez régulièrement que je vous la pose.
Il n'y a pas une réponse unique, en fait. C'est ça la chose la plus juste. C'est que chaque personne a ses peurs en fonction de son vécu, en fonction de son expérience, en fonction de là où elle en est, de l'évolution de la maladie. Les gens ont beaucoup peur de souffrir. Et principalement, je crois, les gens ont peur de souffrir. Et même en poussant un peu plus loin, à notre sens et à l'expérience, en tout cas, que moi j'en ai, quand les gens disent qu'ils ont peur de mourir, quand on prend le temps de discuter avec eux de quoi ils ont peur et qu'est-ce qui est vraiment en jeu là-dedans et dans la fin de vie, c'est la peur de la dépendance qu'on retrouve souvent et la peur de la souffrance physique.
Et puis j'ai envie de dire aussi que souvent les gens, quand ils l'expriment, nous parlent de la peur de comment ils vont mourir. En fonction des pathologies, on peut entendre qu'on a peur de mourir étouffé, qu'on a peur d'être seul. Je crois que c'est plutôt du comment on va mourir, parce que peur de mourir, effectivement, c'est lié à l'histoire, à ce qu'ils ont vécu, à peut-être l'expérience d'avoir vu mourir quelqu'un, mais on va plutôt s'attacher à comprendre c'est quoi cette peur. Mais la peur de souffrir, oui, je crois que c'est le plus fréquent. Et surtout de comment ça va se passer, ça on l'entend souvent.
Du côté de l'association Jalmalv.
je crois qu'il y a une grande souffrance, c'est celle qu'à partir du moment où l'état général se dégrade et que le malade sent qu'il va mourir, c'est la grande souffrance qu'il a, c'est la séparation avec les siens. Et en fait, c'est une souffrance psychologique pour laquelle nous ne pouvons que l'écouter et partager. Et c'est la raison pour laquelle, on y reviendra, en tant que bénévole, nous devons écouter cette souffrance en collaboration des soignants.
Moi, ce que je reprends justement, c'est ce qu'on a entendu, oui, c'est qu'il y a une grande compréhension qui est en même temps pleine de craintes entre l'image qu'on se fait des médecins et du corps médical et puis de ce qu'on voudrait qu'ils soient. Hein. Dans la première déclaration, le premier témoignage, le médecin m'a dit qu'il ne pouvait plus rien faire. Et ça, il faut reconnaître que j'espère que maintenant, c'est un propos qu'on n'entendra plus. Mais il n'y a pas si longtemps que ça, le médecin a dit on ne peut plus rien faire. C'est-à-dire qu'on ne peut plus guérir. Mais ce n'est pas du tout la même chose. Voilà.
Est-ce que vous avez des questions ? Vous n'hésitez pas, hein. On est entre nous. Hein. Quelle est la première chose que disent les gens qui viennent vous voir à l'association, justement ? Quelle est la première question ? Quelle est la première interrogation qu'ils peuvent avoir ? Quand les bénévoles sont là, on les a cités tout à l'heure, qu'est-ce qu'ils vous disent ? C'est quoi la première chose ? La première demande, la première inquiétude, la première peur, je ne sais pas.
Votre question, c'est par rapport aux bénévoles qui viennent nous voir.
Oui, quels sont les gens, quand ils viennent vous voir, la première question, la première interrogation qu'ils ont?
Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des bénévoles là, qui peuvent répondre là, par rapport à ça
Qu'est-ce qu'ils viennent chercher, en fait, c'est ça la
question? En fait, oui, non, mais oui, voilà, je comprends mieux. En fait, effectivement, les bénévoles qui viennent nous voir... Ils veulent, parce qu'ils ont eu une expérience souvent d'accompagnement, soit difficile, soit au contraire, pour lequel ils ont trouvé qu'ils avaient été très entourés. Et du coup, ils veulent redonner ce temps auprès des malades et de leur famille. C'est vraiment la raison la plus, enfin celle qu'on rencontre le plus souvent.
Donc ma question n'était vraiment pas claire, je vais vous la reposer. Qu'est-ce que les gens, le public qui vient voir l'association, vient rechercher, vient vous voir, pas les bénévoles, le public, oui. Quelle est la première question, la première interrogation, premier doute à lever peut-être?
Oui, effectivement, ils viennent nous voir beaucoup viennent nous voir par rapport au fait qu'on accompagne effectivement les personnes jusqu'au bout est-ce qu'on peut aller partout, est-ce qu'on peut accompagner, etc. Effectivement, je crois que c'est une des demandes.
Il y a beaucoup d'inquiétudes, j'imagine, hein, quand ils viennent.
Oui, mais ce que je veux dire, c'est que les gens qui viennent à notre permanence à l'association, qui montent deux étages déjà, je trouve que c'est un peu dissuasif et c'est bien. Mais ils ont fait déjà une réflexion personnelle. Hein, et ça a mûri pendant quelquefois plusieurs années. Ils sont venus à une conférence et puis ils laissent filer les choses parce qu'il y a eu un incident personnel qui les a fait se détourner de cet objectif. Et puis quand ils se sentent prêts, ils viennent nous voir. Mais déjà... ils ont une maturation personnelle et notre objectif, c'est que ce projet personnel devienne un projet collectif. Parce que l'accompagnement, c'est l'association communautairement qui l'assure.
C'est ça, en fait. La démarche a été mûrie avant et effectivement, c'est un aboutissement. Et ces deux étages sont plutôt une belle image. Est-ce qu'il y a des questions? Vous n'hésitez vraiment pas. Hein, ah, je vais tenir le micro, je vais vous le tenir.
Alors, s'il n'y a jamais d'acharnement thérapeutique, à quoi sert de faire des directives anticipées ?
La question des directives anticipées, c'est quelque chose de très compliqué. Parce qu'on peut faire des directives anticipées, là maintenant, tous vous pouvez en faire, sans problème, et vous allez dire... je veux mourir dans telles conditions, je souhaite un certain nombre de choses, qu'on arrête les soins, qu'on ne me réanime pas, etc. Mais là, vous êtes en mesure de le dire. Et comme vous avez vu dans le film, la plupart du temps, quand on est en situation de fin de vie, on n'a pas un discernement correct et on a beaucoup de mal à dire ce qu'on veut. On est très ambivalent. Moi, je suis gériatre, je ne suis pas médecin généraliste. Hein. C'était une petite erreur. Donc, je m'occupe des gens très âgés, en fin de vie. Et la plupart du temps, leur discours, c'est « je ne veux plus vivre, donc laissez-moi tranquille, je ne veux plus rien ». Et dès qu'on peut les soulager un petit peu sur le plan de la douleur physique et psychique, c'est « ah, ça va beaucoup mieux, je voudrais voir mes proches, j'ai encore du temps à vivre ». Donc, on est dans cette ambivalence-là, si vous voulez. Donc, parler de directives anticipées dans des situations de fin de vie comme ça, un peu difficiles, c'est, à mon avis, très compliqué. L'acharnement thérapeutique, c'est aussi... on ne devrait plus en parler. C'est vrai que maintenant, on dit qu'on est dans un traitement... On ne fait pas d'obstination déraisonnable. Voilà, ce n'est plus tellement le terme acharnement thérapeutique, c'est l'obstination déraisonnable. C'est-à-dire qu'on réfléchit un petit peu, tous les médecins, l'équipe de soins palliatifs pourra en parler aussi, à ce qu'on va faire pour amener les gens vers une fin de vie la plus confortable possible. Et je crois qu'avec la loi Leonetti, on est vraiment là-dedans.
Je voudrais juste apporter une précision. Alors, l'obstination déraisonnable, parce que je vais rester aussi sur ce terme qui est plus juste à mon avis, parce que c'est pas de l'acharnement, les médecins font pas d'acharnement, on n'est pas là-dedans. C'est quelque chose de très personnel. C'est-à-dire que nous, on accompagne des gens en fin de vie qui ont des âges très différents, qui ont des pathologies très différentes, qui ont des expériences très différentes. Et autant on a des gens pour lesquels, alors je vais prendre deux extrêmes volontairement, hein, pour lesquels l'obstination déraisonnable, ça va être 12e ligne de chimio. Alors je fais exprès au bout et de continuer des soins très lourds avec de la réanimation, avec des choses. Et là, ils vont dire, bon ben là maintenant, stop, ça suffit. On a aussi des gens, et c'est tout à fait un choix personnel, qui vont nous dire, moi je veux pas de chimiothérapie. Je veux qu'on me laisse tranquille. Et si vous voulez, il n'y a pas un moment où on passe de l'un à l'autre. On passe de l'un à l'autre en discutant avec le patient quand il peut donner son, décider. Parce que là, il n'est pas question de donner son avis, il est question de décider quand on est le patient. En discutant avec le médecin, on peut aussi nous, en tant que médecin, se rendre compte de là où on en est en discutant avec les proches, avec la personne de confiance. Et c'est là que les directives anticipées peuvent nous aider, parce que effectivement, quelqu'un qui arrive dans notre service, qui est hospitalisé et qui écrit « moi, je ne souhaite plus de traitement spécifique de la maladie », ça ne veut pas dire qu'on ne fera pas de soins, on fera des soins pour son confort, mais ça veut dire simplement que nous, ça nous donne une indication que là, pour lui, ça suffit, quoi.
Qui va décider alors à la fin ? Le médecin, la famille ?
Alors, quand le patient peut donner son avis, c'est-à-dire quand le patient est en état, c'est le patient qui décide. Notre rôle à nous, c'est de lui apporter toutes les informations nécessaires et de prendre le temps pour qu'il puisse prendre sa décision la plus juste possible pour lui, et en ayant compris et en ayant discuté assez avec le personnel soignant, quel qu'il soit, pour comprendre les tenants et les aboutissants de la chose. Donc c'est au patient, et c'est ça aussi les apports de la loi, de décider ce qu'il souhaite et quel traitement il souhaite. Et s'il veut dire non à un traitement, il a toujours le droit. Quand le patient ne peut pas décider, n'est pas en état de décider, c'est d'abord les directives, c'est le médecin qui va prendre la décision. Sauf que le médecin n'a pas le droit de prendre la décision tout seul. Heureusement, le médecin va prendre la décision d'abord en lisant les directives anticipées qui ont été écrites, qui vont être le premier indicatif de la volonté du patient. Dans un deuxième temps, le médecin va rencontrer la personne de confiance si elle a été désignée, c'est-à-dire une personne qui a été désignée par le patient comme étant la personne qui pourra être au plus proche, donner l'avis au plus proche de ce que lui aurait souhaité. Et puis il reste les proches qui doivent aussi être concertés. Et puis le médecin ne peut pas prendre la décision tout seul, c'est-à-dire que le médecin doit prendre une décision de limitation de soins, se prend en accord et en discutant avec toute l'équipe qui a pris en charge le patient, que ce soit tous les paramédicaux, tous les gens qui sont autour, la diététicienne, le kiné, l'infirmière, l'assistante sociale parfois, tous les gens qui ont eu à soigner le patient et qui du coup peuvent apporter un regard un peu complémentaire pour arriver à quelque chose qui soit le plus près possible de la volonté des gens.
Parce que la question qu'on se pose souvent, c'est quel est le rôle de la famille dans ces moments-là, en fait.
Alors, la famille, dans ces cas-là, voilà, il y a effectivement une hiérarchie. C'est-à-dire, d'abord, quand le patient peut donner son avis, c'est le patient. C'est-à-dire que dans ce cas-là, effectivement, on respecte ce que les patients ont à dire, et c'est leur vie, c'est leur choix. Et puis, il y a les directives anticipées, la personne de confiance, les proches, l'équipe au sens large, et puis le médecin qui, au final, prend une décision la plus proche possible de ce qu'aurait voulu le patient en question.
C'est quoi exactement la personne de confiance ?
Avant de répondre à cette question-là, moi, je voulais juste parler, enfin, témoigner de la réalité de ce qu'on vit. Les directives anticipées, comme l'a expliqué Laure, la manière de faire, elle est tout à fait protocolisée. Ce qu'on constate dans la réalité, c'est qu'il y a très peu de personnes qui rédigent des directives anticipées. Et je crois que ça témoigne d'un manque d'information très important. À chaque fois qu'on en parle, une personne sur deux, un citoyen sur deux ne sait pas ce que c'est, ne sait pas que ça existe. C'est comme la loi Leonetti, 90% des personnes ne la connaissent pas. Hein, donc je crois qu'il y a déjà ce manque d'information. Avec l'équipe mobile, ça arrive. Hein, quand on accompagne des patients sur des maladies qui vont durer longtemps, on les connaît souvent au début de la maladie. Il arrive qu'on leur propose d'en écrire, il arrive qu'on en parle. À l'unité, je me souviens d'une dame qui avait appris des choses difficiles et qui m'a dit « je veux écrire mes directives anticipées », mais elle était sous le coup de l'émotion. À ce moment-là, elle ne voulait rien. Et une fois qu'elle a eu les explications sur ce qu'on pouvait encore faire pour elle, elle a complètement changé d'avis. Donc je crois que c'est une question, d'une part, il faut vraiment informer les personnes de cette possibilité, et ensuite bien se dire qu'il faut qu'elles soient réajustables. C'est impressionnant comme les personnes peuvent changer d'avis. La même personne peut nous dire tout et son contraire dans la même journée. Et puis, il y a l'obstination déraisonnable, et puis il y a aussi des personnes qui s'acharnent à vivre. Donc je crois qu'on va passer, enfin, je pense que toutes les équipes, on va essayer de comprendre ce que le patient souhaite en essayant de comprendre et de trouver la proposition de soins la plus raisonnable. Mais ça peut aller... Pour prendre un exemple concret, faire des antibiotiques, ça peut être vécu comme de l'obstination déraisonnable. Et pour un autre patient, il vaudra une transfusion. Donc en soi, l'obstination déraisonnable, c'est quelque chose de très subjectif et de lié au contexte et à chaque personne. Et pour la même personne, à des moments différents de sa vie. Alors la personne de confiance, là aussi, hein, rien que le mot. C'est très très difficile. On avait essayé de... on a eu plusieurs personnes qui nous ont expliqué que désigner une personne de confiance, c'est aussi comme si je disais aux autres, à mes autres proches, que je n'ai pas confiance en eux. Donc déjà, il y a des personnes qui n'arrivent pas à désigner une personne de confiance parce que je vais choisir qui ? Je vais lui faire porter peut-être des décisions très difficiles et ça aussi. Quand on est dans la réalité de la situation... C'est très, très difficile. Donc, il y a aussi un manque d'information. Il y a aussi, je crois, qu'on est dans un monde où on a peur de parler des choses. Donc, déjà, je pense que beaucoup de soignants sont en difficulté pour parler de la personne de confiance, donc des directives anticipées, que beaucoup de personnes n'osent pas parler, comme si de parler de ce qui pourrait arriver le ferait arriver plus vite. Donc, la personne de confiance, c'est la personne qui serait notre porte-parole si je ne pouvais plus m'exprimer. Mais de là à arriver à la désigner, et puis c'est souvent fait trop tard, c'est-à-dire que nous, quand ils arrivent à l'unité, qu'ils sont extrêmement vulnérables, extrêmement fatigués, est-ce qu'ils peuvent encore désigner une personne de confiance, hein? Alors, l'objectif de mon propos, c'est vraiment, je pense au don d'organes. Voilà, c'est un truc dont on ne parle pas en France, ça fait peur. Ben, la mort, c'est pareil, la maladie grave, c'est pareil, la vieillesse, c'est pareil. Et je crois qu'il y a vraiment un travail d'information qui fait qu'on n'ose pas parler de ces questions-là et qu'on les aborde trop tard. Donc on fait du moins mal possible en équipe. Je ne sais pas si vous voulez.
Si, si, enfin pour moi, oui. D'autres questions ? Oui, je vous la pose tout de suite. Si vous avez d'autres questions, vous levez la main.
Alors justement, ces directives anticipées, au niveau du protocole, Est-ce qu'on peut le faire sur papier libre ou, enfin, personnellement, j'ai eu affaire à la DMD, mais est-ce qu'il y a d'autres protocoles?
Alors, les directives anticipées, il y a, alors nous, parfois, on aide les gens en leur donnant des formes, effectivement, c'est-à-dire qu'on a hein, des modèles qui peuvent guider un petit peu les gens qui sont un peu perdus dans le type de questions médicales qui peut se poser. On peut être près d'eux quand ils le souhaitent. En pratique, n'importe qui peut les écrire sur papier libre et ça a une valeur tout à fait légale, si vous voulez, sans en-tête, sans rien, simplement sur un papier.
À l'association Jeanne Malve, c'est aussi une question que l'on vous pose?
Oui, c'est une question qu'on nous pose, oui. Comment écrire et où et comment? Et pour compléter l'information qui vient d'être donnée, je crois qu'il est important de mettre les directives anticipées dans un endroit, enfin d'en parler autour de soi, de dire j'ai écrit mes directives anticipées, elles sont dans mon porte-monnaie avec ma carte d'identité ou ma carte vitale. Je crois que c'est une réflexion, enfin là moi je ne suis pas soignante, je suis bénévole, mais je crois que Jalmab est associé avec la Société française de soins palliatifs et c'est un des domaines qu'ils réfléchissent, c'est à partir du moment où la personne a décidé d'écrire ses directives anticipées, où les garder et où les mettre, de façon à ce que la personne, le médecin ou les infirmières qui vont prendre en charge cette personne, eh bien, trouvent ce qui a été écrit et donc la volonté de la personne. Voilà. Et puis, comme ça a bien été dit, on répète, à l'association, nous, en tant que bénévoles, on répète que, et ça a été dit par Catherine Boisseau, que c'est pas parce qu'on les a écrits que ça va rester. Donc, on peut les réajuster, déchirer la feuille, en écrire une autre, hein, puisque, comme l'a dit quelqu'un, on est très... très ambivalent et on peut changer d'avis suivant notre état.
Monsieur,
ma question va peut-être vous paraître simpliste, toute simple, mais je vous écoute et j'ai l'impression que tout ce que vous dites, ça suppose que le dialogue soit parfaitement ouvert entre les soignants et le malade. Je m'explique. J'en suis encore un peu resté, parce que je suis vieux, parce qu'autrefois, on disait qu'il ne fallait pas dire la vérité au malade. On disait que ça pouvait lui faire du mal si on lui disait là où il en était, qu'il allait mourir ou qu'il allait... Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc, tout ce que j'entends là, ça suppose qu'entre vous soignants et le malade, il y a une totale transparence ou c'est pas vrai?
Alors, oui et non. C'est-à-dire que, alors oui, on se doit de donner la vérité au malade. Ça, c'est pas négociable. C'est-à-dire qu'on ne ment pas à un malade. On lui dit la vérité. On lui raconte pas n'importe quoi. Ça, c'est du droit. C'est du droit du patient d'avoir la vérité. Là où je vais modérer un tout petit peu, c'est on a des patients, on suit des patients qui ne souhaitent pas parfois tout savoir. Alors soit ils nous le disent, très clairement, on a des gens qui nous disent « moi je veux tout savoir mais que les bonnes nouvelles » ou qui nous disent « voilà, moi je... là c'est assez pour moi, je vous fais confiance » ou « en tout cas, je veux pas savoir plus, je viens à mes rendez-vous, je fais ce que... » Alors ça peut changer et on peut faire l'aller-retour là-dedans plusieurs fois. On a aussi des gens qui vont poser aucune question. C'est-à-dire qu'ils vont venir à un rendez-vous et qu'ils vont laisser complètement. Et là, par contre, alors, bien sûr, parfois, on pose, nous, des questions aux patients. Est-ce que vous voulez nous poser des questions? Est-ce que vous avez des choses à nous demander? Est-ce que vous voulez qu'on discute de là où vous en êtes? Enfin, y a plein de questions ouvertes comme ça qui peuvent ouvrir le dialogue. En pratique, il arrive que moi, quand j'ai des gens qui me disent « Non, j'ai pas de questions » ou « Non, mais je veux pas savoir », on respecte aussi ça. C'est-à-dire qu'on respecte aussi le temps du malade, son cheminement, et puis il y a des fois où c'est trop, où c'est pas la peine de rajouter, où ils reviendront un peu plus tard, et puis on continuera à avancer ensemble. Et puis il y a des fois, mais en pratique, les gens qui disent, les gens qui viennent à un rendez-vous, qui disent, voilà, j'en suis où, mon scanner, mon machin, mon truc, on se doit de dire la vérité, c'est une obligation, bien sûr.
Je peux rajouter quelque chose. Dans le code de déontologie médicale, on dit qu'il faut donner une information claire, loyale et appropriée aux patients.
Ok, alors Claire, on imagine bien ce que ça peut être. On essaye avec nos mots d'expliquer. Loyal, c'est déjà plus difficile. Approprié, c'est ce qu'on fait tous les jours. C'est-à-dire qu'en fonction du patient qu'on a devant nous, du malade, de la personne, on va s'adapter. Et on est obligé de s'adapter pour l'écouter. Après, votre question, je pense qu'elle était plus sur l'idée que maintenant, on est moins dans l'accompagnement paternaliste du médecin qui va protéger son patient en lui cachant un certain nombre de choses, qu'on est plus maintenant dans l'autonomie, le respect de l'autonomie et de la décision du malade. Et c'est-à-dire que sous couvert de l'autonomie, on donne énormément de droits au malade, mais qu'il n'est pas forcément en mesure d'accepter quand il est vraiment mal. Voilà. Et donc je crois qu'il faut tendre à être un petit peu entre les deux, c'est-à-dire protéger son patient, comme l'a expliqué Laure, et puis essayer de comprendre ce qu'il a envie d'entendre et de lui laisser de l'autonomie décisionnelle, même s'il n'est pas en mesure d'avoir une complète autonomie, parce qu'il est fatigué, parce qu'il a une démence évoluée, parce qu'il est très vieux, très âgé, ou parce qu'il est psychologiquement déprimé.
Quelqu'un souhaite rajouter quelque chose avant qu'on passe à une autre question ?
Ce que vous disiez tout à l'heure, je pense que le fait que les familles souhaitent qu'on protège leurs patients, on l'entend très souvent. Quand les personnes arrivent à l'unité, je pense à une famille qu'on a reçue cet après-midi, la peur des enfants, c'est « vous n'allez pas tout lui dire ». Voilà, donc là, on explique voilà, ce que vous venez d'entendre, que s'il y a des questions, on répondra. Mais là aussi, par expérience, alors je demandais à l'équipe qui est avec moi, mais je suis intimement persuadée que toutes les personnes sentent qu'elles vont mourir, qu'elles en parlent ou pas. Elles sentent qu'elles s'aggravent, elles sentent qu'elles sont fatiguées, elles sentent qu'elles sont de moins en moins bien. Elles ne le disent pas forcément. Donc il y a des choses qu'on sait. Est-il besoin de leur faire violence en leur disant tous les matins que la vie va s'arrêter ? Je ne crois pas. On parle de tout sauf de ça. Ce n'est pas pour ça qu'on ne sait pas. Mais après, cette peur qu'on dise pour protéger ses proches, elle est naturelle, c'est tout à fait humain.
Madame Poupin, Madame Guinaud, vous souhaitez rajouter quelque chose ?
Non, rien.
D'accord. Une autre question.
Pour confirmer ce que tu dis, Catherine, c'est vrai qu'en tant que bénévole, ils nous disent « Oh, il ne veut rien nous dire, mais je sens bien que je ne vais pas bien, hein, mais ils ne veulent pas me le dire, hein, c'est ça. » Donc en fait, ça confirme ce que tu dis. Hein. Ils sentent bien qu'ils vont mourir, mais ils disent que le médecin ne leur a pas donné d'informations ou qu'on ne veut rien leur dire. Quoi.
Bonjour. Moi, je voulais différencier. Enfin, il y a l'équipe des unités soins palliatifs où toute l'équipe est formée et travaille ensemble et réfléchit ensemble. Et puis après, il y a tous les services de gériatrie. Et c'est vrai que le travail se fait un petit peu différemment d'un lieu. Enfin, voilà. Et c'était de différencier les deux et autour de l'écoute du malade quand effectivement on est dans un service de gériatrie. Est-ce que toute l'équipe, voilà, comment elle s'organise ?
Docteur Mijon Dubalet, médecin gériatre au CHU
d'accord,
de Poitiers,
oui.
J'ai rectifié.
C'est pas grave.
Je travaille aussi dans un service, oui. Voilà, c'est parce que voilà, ce questionnement.
On essaye de former au maximum les soignants, hein, voilà, de les faire toucher un petit peu à l'accompagnement du patient en fin de vie. Et puis c'est leur expérience propre qui leur permet aussi d'accompagner ces gens. C'est vrai que l'équipe mobile de soins palliatifs est très performante, entre guillemets, là-dessus, parce que c'est vraiment leur truc. Je crois que dans les services de gériatrie ou dans les EHPAD, s'il y a peut-être des soignants là, je crois que de plus en plus, on commence à savoir faire. Et moi, j'oserais même dire que c'est les soignants, notamment les aides-soignantes, puis les infirmières, qui reçoivent en bloc la souffrance des patients et qui la retransmettent aux médecins ou aux cadres de santé. Et c'est eux qui ont ce ressenti-là et qui très très vite vont nous donner une alarme en disant « Mais attendez, là, ce que vous faites, c'est n'importe quoi, vous vous obstinez, la personne, elle ne va pas bien, elle demande à ce qu'on arrête les frais, entre guillemets, il faut l'écouter. » Et c'est eux qui nous disent ça et nous, après, on va réajuster Hein, mais on a souvent ça. Je ne sais pas si les infirmières veulent parler un petit peu, mais...
Je voudrais revenir sur la question de tout à l'heure, sur dire la vérité, donner une explication au patient. Très souvent, le médecin va voir son patient, lui dit la vérité ou parle d'un résultat d'examen. Et puis nous, personnel soignant, nous passons après et on s'aperçoit qu'il cherche à ce que... On reformule ce que lui a semblé avoir compris du médecin. Et ça, c'est très souvent que ça arrive. Hein. Donc après, eh bien, on en parle ensemble. Hein. Mais ce n'est pas toujours évident. On a l'impression qu'on a dit quelque chose et que l'autre l'a entendu et l'a compris. Et ce n'est pas toujours évident. Et quelquefois, quand nous, on entend une autre version... Eh bien, ce n'est pas du tout celle qu'a donnée le médecin. Hein. C'est difficile quelquefois aussi de recevoir des mauvaises nouvelles. Hein. C'est donc quelquefois aussi, ben, on fait comme si on n'avait pas compris ou on les oublie. Hein. Enfin,
C'est pour ça qu'en unité soins palliatifs, quand on voit des patients qui viennent chez nous pour la première fois, on y va tous ensemble. Parce qu'en y allant avec l'aide-soignante, avec l'infirmier, on arrive à partir... d'un regard qui est tous le même sur le patient. C'est-à-dire qu'on a tous entendu la même chose. Et on se rend compte effectivement, alors je pense que qu'on soit alors médecin, nous on utilise nos mots, on essaie de se mettre au plus près, mais quel qu'on soit, le patient va mettre du temps parfois à entendre les choses, et c'est légitime. Et puis parfois il aura besoin d'en reparler avec quelqu'un d'autre. Et puis parfois il va en reparler avec quelqu'un d'autre pour vérifier que ce qu'on a dit, c'était quand même vraiment vrai et qu'il n'y a pas une autre... Et c'est légitime de faire comme ça, et c'est tout l'intérêt de travailler en équipe pour réussir à avoir un regard et que le patient ait aussi les informations les plus complètes possibles au moment où ça lui convient.
Merci. Levez bien la main, s'il vous plaît, qu'on vous voit bien.
Bonjour. Quand le patient en fin de vie est maintenu à domicile... Qu'est-ce qui peut être mis en place?
Je vais poser la question aux personnes du réseau qui sont là. Alors, je vais essayer de répondre à la question, mais là aussi, il n'y a pas une réponse. Je crois qu'il y a deux grandes situations. Est-ce que ce patient a un environnement familial ou pas? Est-ce qu'il est isolé socialement? Quel âge a-t-il? Parce qu'aujourd'hui, les aides financières qu'on peut avoir quand on a moins de 60 ans et quand on a plus de 60 ans sont complètement différentes et très, très, très inégales. Est-ce qu'on a un conjoint qui travaille toute la journée? Donc, on est seul la journée. Quel est son degré d'autonomie? Donc, on va commencer déjà par évaluer ensemble de quoi a-t-il besoin. Alors, ça va de... Est-ce qu'il fait sa toilette tout seul? Est-ce qu'il est capable d'aller aux toilettes? Est-ce qu'il peut manger tout seul? Qui va lui faire la cuisine? On va travailler avec l'assistante sociale du service et puis on va essayer de comprendre pourquoi il veut rentrer. Est-ce qu'il exprime là un besoin de rentrer parce qu'il va encore bien ou est-ce qu'il est en train de nous dire qu'il ne veut pas mourir à l'hôpital? Et si c'est le cas, alors des fois c'est pas si clair que ça, hein, et si c'est le cas, qu'en pense sa famille? Ça aussi, aujourd'hui, socialement, beaucoup de gens, on entend souvent, s'il meurt dans le lit, je ne pourrai plus jamais habiter dans la maison. Si mon proche meurt là, eh bien moi je m'en vais, je ne pourrais pas dormir dans le lit où la personne est morte. Il y a 50 ans, on essaye, on mourait au même endroit, mais là aussi, aujourd'hui, c'est complètement différent. Donc on va essayer de comprendre ce que veut dire rentrer, pourquoi rentrer, et on va essayer de voir comment l'aider à rentrer. Et ça aussi, je pense que là, toutes les informations... que peuvent recueillir l'équipe, qu'on soit aide-soignante, qu'on soit infirmière, l'assistante sociale, le kiné, le médecin, c'est extrêmement important pour avoir une vision la plus juste des besoins du patient. Jusqu'où est-ce qu'on peut mettre en danger un proche? Quand on a un grand malade et qu'on ne dort pas de la nuit et que ça dure pendant des semaines et qu'on a des petits-enfants et qu'il faut aller travailler, quelquefois c'est extrêmement difficile. Et puis, on va contacter... tous les services possibles. Alors, il y a aussi de grandes inégalités en fonction de là où on habite.
Est-ce que là, nous on regarde en général, je regarde où ils habitent, hein, je sais s'il y a une HAD, s'il n'y en a pas, s'il y a un SIAT, s'il n'y en a pas, s'il y a des infirmières libérales, si le médecin traitant, parce que là c'est très lourd pour les médecins traitants, est-ce qu'il est disponible? Voilà, et on va adapter les aides proposées à la situation du patient et de sa famille. Mais c'est beaucoup de personnes ont peur qu'il arrive quelque chose à la maison. Un malade, enfin sortir, là je parle de l'unité de soins palliatifs, l'idée qu'on beaucoup de personnes ont une représentation de l'unité comme le dernier endroit. Donc ils arrivent en pensant qu'ils ne ressortiront pas. Donc quand ils vont mieux et que se profile un projet de sortie ou que le malade exprime qu'il veut rentrer, c'est quelquefois très 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 douloureux pour les proches. Ils n'avaient pas imaginé ça. Ils avaient vu l'unité comme la dernière demeure. Je sais pas si...
Autre question ?
Oui, moi je voulais savoir pour les patients qui sont en fin de vie mais qui ne sont pas forcément dans une unité de soins palliatifs, comment leur fin de vie était appréhendée par l'équipe soignante qui est peut-être pas formée de la même façon, par rapport à ceux qui ont, je dirais, entre guillemets, la chance de pouvoir peut-être aller donc dans une unité de soins palliatifs.
Alors tout le monde, alors je vais faire une généralité d'abord, c'est tout le monde n'a pas besoin d'être en unité de soins palliatifs. C'est-à-dire on a besoin d'être en unité de soins palliatifs quand on a une problématique, qu'elle soit un épuisement global, qu'elle soit une souffrance physique qu'on a du mal à soulager, qu'elle soit une souffrance morale, qu'elle soit des symptômes respiratoires, enfin ça peut être très très large. C'est pas toujours la catastrophe en fin de vie, heureusement. Quand ça l'est, puisque c'est ça la question, on a une équipe mobile qui tourne dans l'hôpital et qui va du coup dans tous les services intervenir et essayer de résoudre ces situations. Alors ça peut être une situation éthique, c'est-à-dire une réflexion à mener, auquel cas on sert à poser un peu, c'est-à-dire à poser l'équipe soignante qui a eu les regards aussi sur le patient, qui a des regards qui sont tout à fait valables, et à réfléchir du coup avec eux. Et puis ça peut être une aide plus médicale, plus thérapeutique, où on va, quand c'est compliqué, leur apporter des conseils, et puis discuter avec eux, et puis suivre les gens. C'est-à-dire qu'on va et on va venir soit tous les jours, soit tous les deux jours, soit toutes les semaines, selon le rythme qui est nécessaire. Et puis ça peut être aussi rencontrer les familles. Rencontrer les familles, aider un petit peu, et puis voir si... Et puis, du coup, soit on y arrive et c'est très bien, et on continue à suivre les gens, et les gens ressortent, parfois on les voit après en consultation, on continue à les suivre. Soit on n'y arrive pas, parce que ça arrive aussi, et dans ce cas-là, on voit si les gens peuvent venir être hospitalisés pour régler un peu le problème chez nous.
Juste pour dire, donc, sur l'hôpital de Poitiers, on a la chance donc, d'avoir cette équipe de soins palliatifs qui est mobile et qui a ses lits. Il y a des lits dédiés soins palliatifs aussi au sein des unités de l'hôpital. Et donc, tous les patients qui ont besoin de leurs compétences vont les avoir. Hein, donc, ça, c'est, on fait appel à eux, il n'y a aucun problème, ça marche très très bien, ça fonctionne bien. Ça aide beaucoup les équipes, justement, à poser, à voir les choses différemment. Après, quand on n'est pas à l'hôpital, comment on peut faire pour avoir un accompagnement qui soit un petit peu pareil? Alors, il y a beaucoup de travail qui est fait dans les EHPAD, hein, les maisons de retraite médicalisées, avec beaucoup d'accompagnement en fin de vie. Les médecins coordonnateurs, les infirmiers coordonnateurs réfléchissent à ça de plus en plus. Hein, donc, il faut quand même savoir que voilà, il y a des interrogations, il y a des formations et il y a des débats pour ça aussi qui se font.
Et puis pour les gens à domicile, pardon, je te passe. Pour les gens qui sont à domicile, puisqu'on a aussi des gens qui ne sont pas en fin de vie, mais qui sont chez eux et qui vont avoir une problématique soit ponctuelle, soit moins, on a des consultations. Donc les gens peuvent aussi venir nous voir une fois de temps en temps. C'est-à-dire qu'on a des gens, pour revenir sur les directives anticipées, qui viennent nous voir, qui disent « voilà, j'ai appris que j'avais un cancer qu'on ne guérirait pas. Je viens vous rencontrer pour savoir un peu comment ça va se passer et quels sont mes droits. » Et puis c'est des gens, en général, quand on a fini la consultation, ils disent « bon ben merci beaucoup, au revoir, je vous rappelle quand c'est le moment, en clair. » Et puis on a aussi des gens qu'on va suivre, mais qui seront chez eux et qui viendront nous voir pour faire un peu le bilan et puis pour ajuster les choses. Et dans ce cas-là, c'est nous qui, après, nous mettons en lien avec le médecin traitant pour faire quelque chose qui fonctionne.
Sur la
Attendez, avec le micro, s'il vous plaît. Il arrive.
Sur la Vienne, pour les soins, les HAD, il n'y a rien de vraiment bien fait pour les gens qui veulent rester chez eux jusqu'au bout. Pour les accompagner, est-ce qu'il y a une possibilité de mise en place de soins à domicile?
Alors, je voulais finir de répondre à la première question. Il y a évidemment qu'il y a des personnes en situation palliative dans tous les services de l'hôpital. Donc il y a l'équipe mobile et puis il y a aussi 3 ou 4 sessions par an de formation ouvertes à tous les soignants de tous les services. Hein. Ça fait partie des missions de l'équipe mobile de soins palliatifs. Donc ça veut dire que dans chaque groupe, il y a à peu près 20 personnes. Ça représente 80 personnes formées par an. Il y a des programmes de formation pour les EHPAD. Et puis évidemment qu'on travaille avec les HAD. Mais le fait est que les moyens humains ne nous permettent pas de nous déplacer à domicile. C'est, voilà, l'équipe mobile de soins palliatifs, c'est 1,8 infirmières et 1,5 médecins, puisque les médecins tournent en même temps sur l'unité de soins palliatifs et en même temps sur l'équipe mobile. Pour vous donner un ordre d'idée, l'équipe mobile, c'est entre 600 et 750 patients suivis par an. Et l'unité de soins palliatifs, c'est à peu près 300 patients par an accueillis. Je ne sais pas si c'est clair, voilà, je recommence. 300 patients par an hospitalisés à l'unité de soins palliatifs à peu près, et entre 600 et 700 personnes suivies par l'équipe mobile. Donc oui, il y a un gros besoin à domicile, c'est très très clair, c'est juste une question économique. Donc je ne sais pas, je crois que si...
Je rajoute simplement en passant qu'effectivement, je rappuie sur ce que disait Madame Boisseau, c'est que en fait, il y a plein de gens qui sont formés à l'hôpital qui ne travaillent pas avec nous dans l'unité de soins palliatifs. C'est-à-dire que nous, on fait ça comme métier, mais il y a aussi plein de gens qui sont d'une autre spécialité médicale ou paramédicaux et qui sont tout à fait bien formés, qui ont suivi des formations et qui sont tout à fait compétents pour poursuivre des patients, soit en fin de vie, soit avec une problématique de ce type-là.
Pour revenir sur la fin de vie au domicile, alors c'est bien si on peut le faire et si on a un accompagnement, comme disait Catherine, des proches très 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 impliqués, autrement c'est quasiment ingérable. Après, il faut voir que tout n'est pas possible. Hein. Il y a des soins quasi obligatoires sur certaines personnes qui ne sont pas possibles au domicile, même avec l'HAD, parce que c'est trop compliqué. Hein, notamment sur les encombrements respiratoires ou les choses comme ça, où vous ne pourrez pas, où la personne ne sera pas confortable. Donc nous, on va chercher quand même le confort maximal de la personne. Hein, donc tout n'est pas possible. Donc avec l'HAD, on essaie. Bon, on est limité par le nombre de gens disponibles, personnel, etc. Mais tout n'est pas possible. Hein, c'est... Mais il y a une
possibilité d'avoir... Avec le micro, s'il vous plaît.
Il y a une possibilité d'avoir... est-ce qu'il y a une concertation avec le médecin, la famille, et une possibilité d'avoir infirmière, kiné?
C'est possible, c'est ce qu'on vous a dit tout à l'heure, hein, mais il faut que vraiment... C'est une équipe hein, qui va essayer de mettre en place des choses. Mais voilà, il y a des limites. Il y a des limites.
C'est peut-être le moment, d'ailleurs, de parler, pour les personnes qui le peuvent, de parler du congé de solidarité que... des personnes peuvent prendre pour un temps donné matériellement aussi ça peut se faire hein, parce que tout le monde n'est pas égaux devant le congé devant le congé de solidarité puisque quelqu'un qui je me souviens d'avoir accompagné une dame dont la fille avait pris un congé de solidarité, mais elle travaillait dans une administration qui fait qu'elle a pu bénéficier d'une allocation journalière par la caisse d'assurance maladie. Elle a pu accompagner sa mère qu'elle avait à domicile pendant 3 semaines et son congé a été renouvelé une fois, je crois. Et sa mère est effectivement morte à domicile. Mais là, c'est une situation un peu peut-être, où vraiment, là, elle avait aussi un fils qui venait de Bordeaux relayer sa sœur. Mais c'est pas, il n'y a pas toujours cette disponibilité et la place aussi hein, pour accueillir quelqu'un.
Oui, moi, je voulais dire que il existait au sein de l'unité la possibilité de faire des hospitalisations de répit. C'est-à-dire que lorsqu'un patient est admis à l'unité pour soulager un symptôme, quel qu'il soit, la douleur, etc., ou n'importe quoi d'autre, un retour à domicile peut être organisé. Et si à nouveau un symptôme difficile se présente à la maison, il peut être réhospitalisé. Ou si ça devient trop difficile pour la famille à domicile, pour éviter l'épuisement familial, une hospitalisation peut être réorganisée.
En pratique, on arrive à faire quand même, je vais te repasser, mais on arrive à faire quand même beaucoup, beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des infirmières libérales qui peuvent passer, il y a des soins qui peuvent se faire à la maison, il y a des pansements, des choses qui peuvent se faire à la maison, à condition. Le plus dur, je vais être, ce sont les patients qui sont soit jeunes, avec du coup un entourage qui travaille, qui ne peut pas s'arrêter pour être à la maison longtemps, auquel cas on peut faire effectivement des retours à la maison en sachant que ça tiendra un petit peu, et puis on fera un peu l'aller-retour pour que ça fonctionne, ou les patients très isolés socialement, où parfois un retour du coup est difficile.
Là aussi, hein, on a à peu près 30% des personnes qui séjournent à l'unité qui retournent chez elles. Elles reviendront peut-être, hein, mais c'est souvent l'occasion d'organiser justement les choses à la maison. Et puis, il ne faut pas oublier les cabinets d'infirmières libérales. Il y a des cabinets d'infirmiers qui sont très investis. Je crois qu'il y a effectivement cette limite-là. Et puis, certains symptômes. Je crois que le symptôme le plus difficile à gérer à la maison, enfin, ce que nous renvoient les familles, il y a les symptômes respiratoires, mais il y a les symptômes neuropsychiques. Quelqu'un qui a des métastases cérébrales à la maison, qui se lève, qui se couche, ça, c'est quasiment ingérable. Ça veut dire qu'il faut une garde malade 24 heures sur 24 ou une présence 24 heures sur 24, sinon les gens s'effondreront un petit peu comme quand on accompagne quelqu'un qui a des troubles psychiques. Ça, c'est épuisant. Hein, donc, il y a des limites. Et puis, est-ce le choix du patient? Il y a des patients qui ont envie de rentrer et qui après, ils rentrent, on organise des permissions. Ça veut dire que quand on sent que c'est précaire, on va proposer au patient de passer, par exemple, une après-midi ou une journée chez lui. Et ça, très souvent, ça l'amène. Alors, c'est positif et en même temps parfois négatif. Ça veut dire qu'il prend d'un seul coup conscience de tout ce qu'il a perdu, de tout ce qu'il ne pourra plus jamais faire. Mais devant un désir très, très important de rentrer et une situation familiale où on sait que ça ne sera pas possible d'organiser une longue période... Voilà, on va essayer d'organiser une permission. C'est énormément d'organisation, parfois. Hein. On l'a fait il y a peu de temps pour une dame, mais bon, voilà, elle avait exprimé, elle, ce besoin et ce désir de faire ses papiers. Voilà. Elle voulait rentrer faire ses papiers. Elle était alitée à longueur de journée. Elle était seule avec des enfants qui ne pouvaient pas l'aider. Il a fallu trouver des professionnels qui pouvaient être là une journée. Hein, donc c'est énormément d'organisation, mais je crois que on était tous contents de l'avoir fait pour elle. Hein. Et puis quand elle est rentrée le soir, on a bien vu qu'elle avait lâché prise. Elle a jamais redemandé à rentrer. Mais bon, il y a quand même 3 HAD sur le département de la Vienne. Il y a beaucoup de cabinets d'infirmières. Voilà. Et puis il y a beaucoup de professionnels qui savent faire. Après, ils ont besoin d'être soutenus.
D'autres questions ? D'accord, on va vous donner la parole, madame. D'ici une poignée de secondes, j'ai juste plusieurs questions. Et comme elles sont en lien avec ce qu'on vient de dire, je vais les poser. Des questions écrites. Alors, on m'a demandé, est-ce que les familles ont une formation, entre guillemets, pour pouvoir accueillir leur famille, la personne qui est souffrante à la maison ?
Alors, on ne fait pas de formation au sens strict du terme. Oui, c'est ça. On prend pas les familles pour leur faire des cours, bien sûr. Cela dit, oui, quelque part, ou en tout cas, quand le patient, c'est-à-dire quand leur proche est à l'unité, on en profite aussi pour les rencontrer. Voir quelles sont leurs peurs, parce qu'eux aussi, ils ont leurs peurs. Qu'est-ce qui est le plus difficile pour eux ? Quelles sont leurs craintes, ce qui a été difficile dans leurs expériences, parce qu'ils ont en général accompagné déjà leurs proches à domicile avant. Donc ils savent ce qui a été difficile. Ils ont beaucoup de questions sur qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que je fais s'il se passe ça à la maison, qui est-ce que j'appelle, quand est-ce que j'appelle. Et ça, c'est des choses qu'on essaye effectivement d'anticiper au maximum avec eux, de leur dire s'il se passe ça. En général, c'est vous nous appelez, on voit, on réorganise les choses pour qu'ils ne se sentent pas complètement abandonnés quand ils ont, et pour qu'on ait paré effectivement aux situations qu'on pense les plus fréquentes et qu'on peut anticiper.
Pendant que vous avez le micro, docteur Percheron, une autre question pour vous. Question écrite, y a-t-il suffisamment de lits en unité soins palliatifs?
Ça, c'est une question difficile. Alors, ça dépend des périodes. Je vais faire une réponse. C'est-à-dire qu'il y a des périodes où il y a beaucoup de demandes et où on a du mal parce qu'on a 10 lits. Et puis, il y a des périodes où ça suffit très bien. En pratique, je crois que... Alors, 10 lits, ça paraît pas beaucoup sur un CHU comme Poitiers. Mais j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. C'est que tout le monde n'a pas besoin d'être dans une unité de soins palliatifs pour terminer sa vie. C'est-à-dire qu'effectivement, les patients... Sont hébergés dans des services qui prennent en charge leur maladie, avec des médecins qui connaissent très bien leur maladie, des équipes qui sont habituées à suivre des malades qui ont ce type de pathologie. Et parfois, l'équipe, là où ce patient est accueilli, vont avoir besoin que l'équipe mobile vienne donner un coup de main ou avoir un regard extérieur ou réfléchir à quelque chose. Mais dans la majorité des cas, les patients sont très, très bien soignés où qu'ils soient à l'hôpital.
Juste encore une petite chose avant de vous donner la parole, madame. Je vous promets que juste après, c'est vous. C'est par rapport à l'association. Je voulais vous demander... Je vous redonnerai la parole après aussi, promis. Je voulais juste vous poser une question. C'est les personnes qui viennent vous voir à l'association sont plus les personnes en fin de vie ou la famille? Est-ce que les familles viennent aussi beaucoup pour prendre, piocher des informations, justement, pour les aider peut-être à garder une personne à domicile?
On a peu de familles qui viennent.
Le problème, c'est que finalement, l'association aide et accompagne beaucoup les familles, mais pas chez nous, c'est dans les services, dans les couloirs où elles sont en souffrance. Et là, elles ont besoin d'une écoute bienveillante, parce que je crois que ce qu'il faut garder, c'est la confiance. Ce que les malades et les proches doivent avoir, c'est confiance dans les soignants. Et pour avoir confiance en quelqu'un, il faut avoir la possibilité d'être écouté, d'exposer ses craintes et ses angoisses. Et à ce moment-là, le malade est en sécurité parce que ses proches sont en sécurité. Et tout joue autour de ça, la confiance qui donne la sécurité.
Très bien. Vous souhaitiez rajouter?
Oui, par rapport à la taille de l'unité, le nombre de lits, moi je suis cadre, donc je vais donner des chiffres. Le délai moyen d'admission depuis 4 ans, c'est 3 jours et demi. Je crois que ça parle de soi-même, donc ça veut dire que c'est court. Évidemment qu'il y a c'est une moyenne. Et puis, les unités de soins palliatifs en France, je crois que la plus grande a 12 lits, sauf Jeanne Garnier, mais sur plusieurs étages. Et moi, j'ai envie de dire qu'on y tient, parce que ce qui est différent, ce n'est pas que la formation, c'est notre organisation de travail. Et on ne pourrait pas avoir la même organisation avec 30 lits. Ce n'est pas possible. Ça veut dire qu'on a une organisation où on essaie, je fais attention à ce que je dis, parce que l'équipe est là, de mettre en place... quelque chose qui serait très proche de ce qu'on vit à la maison, de pouvoir s'adapter au rythme des patients, de ne pas forcément réveiller quelqu'un à 6 heures du matin, de pouvoir le laisser dormir. On ne fait pas le tour des tensions, on ne fait pas le tour des températures, on ne fait pas le tour des tensions. Enfin, voilà, ça n'aurait pas de sens. Ça veut dire et cette organisation-là, donner à manger à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, ça, les toilettes, on en fait autant le matin qu'à 8 heures du soir. Ça nous est arrivé, ça vous est arrivé de donner des douches la nuit à un patient qui était très très douloureux et que la seule chose qui lui faisait du bien c'était de prendre une douche. Il avait une douche à 3 heures du matin. Avec 30 lits à l'hôpital, c'est impossible. Donc c'est vraiment un lieu particulier. Pour rebondir sur ce que vous disiez, ce n'est pas une chance de venir à l'unité. Nous avons des critères d'admission qui sont construits de la manière la plus objective qui soit, en fonction, donc il y a 4 grands domaines, tout ce qui est purement médical. Les symptômes, est-ce qu'il y a des symptômes réfractaires, difficiles à prendre en charge ailleurs? Quel est le contexte social? Ça veut dire qu'une personne qui est toute seule au fin fond de la Vienne, sans accès à une équipe mobile, il est prioritaire par rapport à quelqu'un qui est dans un lit à l'hôpital, qui est déjà soigné par une équipe soignante. Voilà, on a des critères différents qui nous permettent de faire un choix de priorité. Et on a 2 critères d'exclusion. C'est que le malade ne soit pas en traitement curatif. Nous sommes dans une unité de soins palliatifs, donc il n'y a pas un traitement de chimiothérapie lourde. Et puis que le malade soit au courant qu'il vient à l'unité. On ne peut pas prendre quelqu'un qui ne serait pas informé. Oui. Et puis simplement pour ce que vous disiez tout à l'heure par rapport aux familles, les familles, je crois qu'il faut qu'elles puissent garder au maximum leur rôle de proche. Donc, on ne va pas les former. Alors, par contre, elles font beaucoup de soins en même temps que nous. C'est-à-dire qu'elles peuvent rester pendant la toilette. Enfin, c'est l'équipe qui va leur montrer peut-être les gestes qu'on peut faire, les gestes qu'il faudrait faire. On va leur apprendre des petites choses, mais surtout pas une formation. Il faut qu'ils puissent garder ce rôle de proche et pas devenir des soignants.
Formation est entre guillemets.
Je précise juste quelque chose. Catherine disait qu'on ne prenait pas des gens qui avaient des chimiothérapies lourdes. Alors, bien sûr, c'est vrai. C'est-à-dire que ces patients-là n'ont pas leur place chez nous, entre guillemets, parce que ce sont des patients qui ont des traitements curatifs. En tout cas, ce que voulait dire Catherine, c'est des patients qu'on va guérir et que dans ce cas-là, évidemment, la place en unité de soins palliatifs n'est pas ce qu'ils souhaitent en général, d'ailleurs. Par contre, on a des patients qui ont des traitements de radiothérapie, de chimiothérapie, ce sont des traitements palliatifs. C'est-à-dire que maintenant, on a des cancers avec lesquels on va vivre pendant des dizaines d'années et on a des patients qui vont continuer à avoir des traitements en oncologie, qui vont continuer à être suivis par leur oncologue. D'ailleurs, la plupart sont suivis par leur oncologue, mais simplement, ce sont des traitements palliatifs, c'est-à-dire ce sont des traitements pour leur qualité de vie et pour les aider à vivre avec cette maladie, mais ce sont des traitements qui ne les guériront pas.
D'accord. Quelqu'un d'autre a quelque chose à rajouter avant qu'on donne la parole à madame qui attend.
Et puis on est dans un CHU, donc vous avez aussi certainement un rôle de formation par rapport aux futurs professionnels. Hein, parce que si on veut... Là, c'est peut-être l'usager qui parle, plus que la bénévole. Si on veut mettre des soins palliatifs partout, à domicile et puis dans tous les établissements, il faut bien former les gens. Donc le CHU est un lieu, bien sûr, de soins en priorité, mais c'est aussi un lieu de recherche et de formation. Donc en fait, cette unité est capitale dans la mesure où elle va former des soignants, des médecins, des infirmières, des aides-soignantes, enfin voilà, et ils iront travailler dans d'autres lieux. Et je crois que c'est ça qui est important, et c'est en tant que citoyen, c'est une des choses que nous devons demander, c'est que nous tous, on demande que les médecins soient de plus en plus formés, de façon à ce que des soins palliatifs soient réalisables partout, pour tout le monde. Et ça, c'est vraiment très important.
Madame.
L'arsenal législatif autour de la fin de vie en France semble important et semble vous donner satisfaction. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi alors le législateur s'inquiète en ce moment et prévoit un changement de la législation ?
Parce que la mort fait peur, je crois. Enfin, en tout cas, à mon sens, c'est ça. C'est qu'on a tous quelque part peur de ce qui va se passer, de comment ça va se passer. Et c'est une manière de... Alors déjà, la loi est très méconnue. Donc c'est déjà une parole qui est portée par des gens qui ne savent pas forcément quels sont leurs droits et quelles sont les obligations du corps médical, parce qu'il y en a aussi. Et puis c'est aussi une manière d'exprimer la peur, de dire voilà, je ne sais pas ce qui va se passer, mais je voudrais avoir le choix de ce qui va se passer, à mon avis.
Excusez-moi, alors une seconde, c'est que pour modifier une loi, il faut d'abord l'évaluer. Pour l'évaluer, il faut la pratiquer. Et on n'est pas encore au niveau d'une possibilité d'évaluation nationale.
Alors, je pense qu'il y a, la peur, et puis peut-être aussi qu'on est dans une société où il faudrait tout maîtriser. Même la seconde à laquelle je vais mourir. Donc je crois que, quand on avait participé au débat citoyen à Nantes avec l'équipe, on a entendu beaucoup de choses intéressantes, mais aussi beaucoup de choses, qui étaient intéressantes, mais intéressantes sur le plan sociologique. Ça veut dire qu'il faudrait aujourd'hui que l'homme du 21e siècle puisse maîtriser l'heure à laquelle il va naître, l'heure à laquelle il va mourir, de quelle manière il va mourir, où il va mourir, comment il va mourir. Je crois que c'est surtout, on est dans un monde où il faudrait tout maîtriser et que c'est peut-être un peu comme la naissance, le dernier mystère, et que ça, on n'en veut pas. Donc je crois qu'il n'y a pas que cet aspect-là, mais on a beaucoup entendu de discours qui étaient très en lien avec je veux décider, je veux savoir comment ça va se passer, et on s'est rendu compte qu'il y avait une méconnaissance totale de la loi Leonetti, tout simplement. Et là, je vous rejoins, je crois qu'il faut déjà la faire connaître, déjà l'utiliser pour peut-être en comprendre les limites, mais elle est déjà essentielle. Mais la plupart des citoyens ne la connaissent pas. Et ce qu'on a beaucoup entendu, et là, je ne sais pas si mes collègues veulent en parler, c'est la souffrance de personnes qui avaient accompagné des proches et perdu des proches dans des situations épouvantables. Et donc, ils ne voulaient surtout pas vivre ça pour eux-mêmes, ce qu'on peut respecter et comprendre.
Dans le micro, s'il vous plaît.
Je ne parle pas du citoyen de base, je parle du législateur qui va remettre ça sur le tapis. C'est quand même, si la loi Leonetti donne cette... Oui.
Micro, s'il vous plaît.
Il est censé ne pas ignorer la loi, ce serait quand même un peu gros.
Je crois que là, on reparle de la loi parce que ça fait partie des réflexions préélectorales. Hein. Est-ce que la loi Leonetti est suffisante pour pouvoir avoir accepté assurer une fin de vie confortable aux gens, etc. Donc là, il y a eu tout un débat mené, des débats citoyens et un rapport fait par Didier Sicard, un médecin qui a bien réfléchi et qui a collecté tout un tas de d'avis de citoyens là-dessus et sur comment était appliquée la loi. Et le rapport Sicard, il est très bien fait. Et si vous le lisez, vous le retrouvez sur Internet très facilement, on constate que la loi Leonetti, pour la plupart du temps, si elle est parfaitement bien appliquée et connue par les professionnels et notamment les médecins, suffit à prendre en charge correctement les gens. Nous, enfin, je pense que ma collègue dira comme moi, on est très content d'avoir la loi Leonetti. Ça nous permet d'exercer nos métiers, notre métier, tout à fait sereinement. Heureusement qu'on a cette loi en France. Elle est exceptionnelle. Après, c'est normal, moi, je crois, de s'interroger sur le plan philosophique, sociologique, régulièrement sur la mort, etc. Donc là, il y a des débats citoyens qui sont menés sur la fin de vie dans le cadre de révision des lois de bioéthique. Il y a plein d'autres débats qui vont être menés sur les lois de bioéthique. Là, on est sur la fin de vie et c'est intéressant d'en reparler. Hein, et il y a peut-être des limites à la loi Leonetti. Hein, c'est aussi pour ça que les débats sont relancés.
Peut-être que vous pouvez nous parler justement dans le film, on n'en parle pas, de la sédation justement dont la loi Leonetti parle, mais qui est très mal connue et du coup galvaudée. Vous pouvez nous...
Bien sûr. La sédation, c'est le droit qu'ont les médecins de... il y a deux choses. Quand un patient a une souffrance extrême, ça peut être une souffrance morale, ça peut être une souffrance physique, on est dans l'obligation de lui apporter les soins nécessaires pour le soulager. Les soins nécessaires pour le soulager, ça peut être des choses très simples, et puis parfois c'est plus compliqué que ça, parce que les maladies sont compliquées, parce qu'on arrive au bout de ce qu'on s'est proposé. Dans ce cas-là, ce qu'apporte la loi Leonetti, c'est le droit de faire ce qu'on appelle une sédation. Une sédation, c'est endormir quelqu'un, en gros. Lui permettre de se poser en sachant que, alors il y a deux types, parfois c'est simplement faire une pause, c'est-à-dire c'est endormir quelqu'un quelque temps, lui permettre de faire une pause, nous de mettre en place des choses qui vont fonctionner derrière, et puis du coup après on lève la sédation, on a mis en place un certain nombre de thérapeutiques où on a passé un obstacle, c'est-à-dire qu'on a passé un moment difficile, et puis on arrive à repartir sur quelque chose de plus serein, et puis parfois on est amené à faire ce qu'on appelle une sédation terminale. C'est-à-dire qu'on a un patient qui est en souffrance en face de nous, on n'a pas d'autre moyen pour le soulager que de l'endormir, et dans ce cas-là, la loi Leonetti dit que nous avons le droit, en accord avec le patient, donc ce n'est pas un droit médical propre, je vais reprendre ça après, hein, ce n'est pas quelque chose qu'on fait tout seul, d'endormir le patient, c'est-à-dire de lui apporter ce soulagement-là, en sachant que peut-être que ça abrégera un petit peu sa vie, parce qu'il va falloir mettre des thérapeutiques en place. C'est quelque chose que le médecin n'a pas le droit de faire tout seul, comme ça, un jour où il va prendre une seringue et vous endormir. Hein. C'est quelque chose qui doit être discuté avec le patient, qui doit discuter aussi avec la personne de confiance, avec ses proches, quand le patient ne peut pas avoir sa volonté. Et puis c'est quelque chose qui doit se faire après une réunion de concertation, donc avec l'équipe, comme on en parlait tout à l'heure. Et c'est quelque chose qui peut être très rassurant pour les gens, c'est-à-dire si jamais un jour... vous souffrez vraiment, si jamais on arrive au bout de ce qu'on peut vous proposer, eh ben on peut vous proposer de vous endormir pour que vous ne souffriez pas. Et souvent, c'est quelque chose qui rassure les gens, de savoir qu'on ne les laissera pas souffrir et on ne les regardera pas souffrir si on ne sait pas, si la médecine n'a pas de solution à leur apporter.
Et puis après, juste pour compléter, c'est aussi très protocolisé. Ça veut dire qu'on ne met pas comme ça un matin, on ne se lève pas en disant « tiens, on va l'endormir hein. ». C'est vraiment, la loi est très claire. Ça veut dire que toutes les autres thérapeutiques ont échoué. Ça veut dire qu'on essaie vraiment d'être sûr que c'est la demande du patient, pas de son entourage. Parce que ça peut arriver aussi, c'est naturel, quand on n'en peut plus, hein, d'être à côté de quelqu'un, que la famille... Comment ? Ni, tout à fait, ni du soignant, parce que pour une équipe aussi, ça peut être très, très difficile. Voilà, donc c'est là aussi, je crois que la loi permet ça, mais qu'il y a encore une confusion. Hein. Rien que le mot terminal, est, je trouve que ce n'est pas clair. Hein, c'est... Donc la SFAP réfléchit d'ailleurs à changer ce terme dans le... Comment ? Voilà, on parlera plus de sédation palliative que de sédation terminale, parce que ça laisse entendre... qu'on abrégerait la vie alors que ce n'est pas du tout l'objectif. Hein. Et on a malheureusement, ou, enfin je ne sais pas si c'est malheureux ou heureux, en tout cas dans notre expérience, on a quand même aussi beaucoup de patients qui, le sachant, le médecin en avait parlé, dans un moment où le patient était bien et pouvait discuter, au moment de la mettre en route, le patient nous dit non. Ça arrive aussi. Hein. Donc je crois qu'effectivement, le fait de savoir pour un patient que ça pourrait... être proposé, les rassure énormément. Et on a quand même eu un certain nombre de situations où les patients nous ont dit non. Je pense à plusieurs patients, notamment ORL, qui, malgré leur état, n'ont pas voulu qu'on les endorme. Ça veut dire qu'ils voulaient être conscients jusqu'au bout, même si ça peut paraître très, très étonnant. Et puis, on a des demandes aussi de patients qui insistent tous les jours en nous disant qu'ils veulent dormir. Et c'est souvent cela qu'on a beaucoup de mal à endormir. Avec des doses quand même qui nous étonnent. Alors, qu'est-ce que ça veut dire de vouloir s'endormir et de ne pas y arriver ? Bien sûr.
Juste alors, pour les gens âgés, on n'est pas trop dans la même configuration, hein, parce que ce n'est pas forcément eux qui vont le demander, souvent ce sont leurs proches. Et puis l'équipe médicale et paramédicale qui va dire, bon, là, on passe sur une situation de soins de confort. C'est-à-dire qu'on n'est plus en soins curatifs, on arrête tous les traitements qui nous paraissent complètement obsolètes et on va être dans du soin de confort. Et là, on va juste utiliser des drogues pour soulager les souffrances psychiques et physiques. Et on sait, et c'est là que la loi Leonetti pour nous est fondamentale, qu'on a le droit d'utiliser des médicaments qui... sur certaines doses, vont provoquer la mort. Hein. C'est ce qu'on appelle le double effet, c'est-à-dire qu'on soulage les gens, mais on sait très bien qu'à partir d'un certain seuil, il n'y aura pas de retour en arrière. Hein. On fait une titration du médicament, c'est-à-dire qu'on commence doucement. On commence doucement, et puis on est obligé parfois de monter, c'est ce que disait Madame Annie. Hein. Voilà, on monte, et voilà, jusqu'à un certain seuil où on a une espèce de coma irréversible. Avant d'en arriver là, on essaye, nous en tout cas, de voir si les gens ont des choses à dire à leurs proches. Parce qu'on sait aussi qu'à partir d'un certain moment, ce ne sera plus possible. Donc on dit aux proches, voilà, on arrive dans des soins de confort, on va donner des médicaments qui vont endormir, qui vont entraîner un coma, il n'y aura pas de réversibilité possible. Est-ce que vous avez des choses à leur dire ? C'est maintenant qu'il faut venir. C'est maintenant, ce n'est pas demain, ce n'est pas dans 3 heures, c'est maintenant. Donc on essaye au maximum de faire comme ça. Et généralement, on a un accompagnement qui est satisfaisant. Moi, j'ai encore des familles qui me disent, quand on dit on passe en soins de confort, bon alors, quand est-ce qu'on fait le produit ? Alors le produit, c'est comme si on injectait directement un produit qui provoque la mort, euthanasion. Hein. C'est pas du tout ça. Hein. On est sur une titration de produits anxiolytiques et antalgiques qui vont peu à peu endormir le patient calmement et sereinement. Hein, ce n'est pas une mort brutale. Alors, je ne sais pas s'il y a peut-être...
C'est surtout là où j'insiste bien, c'est que le but n'est pas de faire mourir les gens. C'est-à-dire que quand on fait ça, on le fait d'abord avec l'accord des gens et pour les gens, ça a été discuté avec eux, et puis on en arrive à endormir quelqu'un quand on est en échec de tout ce qu'on peut proposer. C'est-à-dire qu'avant d'en arriver là...
on a déjà mis en place un certain nombre de choses. Il s'est passé un certain nombre d'événements. On a réévalué les choses plein de fois. Et c'est simplement quand on est en échec, et finalement, c'est pas si souvent que ça, l'expérience nous montre qu'on peut proposer aux gens de, voilà, si aux gens ou à la personne de confiance ou aux proches, et en discuter, hein, bien sûr, de dire, voilà, maintenant, pour le soulager, on a ça. Est-ce que ça vous convient? Qu'est-ce que vous en pensez? Et les gens, quand ils en sont à cette étape-là de leur maladie, on n'a aucun problème pour en discuter avec eux.
Monsieur ? Je me posais une question. Lorsque je vois la loi elle-même qui paraît quand même assez limpide, et puis la pratique des soignants, j'ai l'impression qu'il y a un fossé entre les deux. Une pratique qui est au jour le jour, cas par cas, alors que la loi est très générale. Est-ce que ça n'implique pas une difficulté pour le corps médical ?
Là, on est toujours dans du cas par cas, hein, sur la fin de vie. Là, c'est chacun avec son propre, sa propre personnalité, sa propre histoire de vie. Voilà, on peut pas être dans la généralité, c'est impossible ça. Après, la loi, elle est claire. Enfin, pour nous, moi, j'avoue que ça me gêne pas. Cette loi, elle pose pas franchement de problème. Donc, on arrive à l'appliquer assez sereinement. Après, la prise en charge d'une fin de vie, un accompagnement de fin de vie, c'est quelque chose de très complexe. Hein. Donc, c'est toute une équipe. Voilà, donc
c'est peut-être le moment de le dire. Justement, les bénévoles viennent en collaboration avec les soignants pour accompagner certaines familles ou certains malades. Et je crois qu'on n'est ni la famille ni les soignants. On est un tiers qui peut, en tout cas qui est présent, qui est là en silence le plus souvent. Pour être témoin de ce qui est en train de se vivre. Voilà, hein, tout simplement. Et je crois que c'est important d'être en lien avec les familles et les malades et les soignants pour montrer la solidarité de la société, hein, qui c'est pas n'importe quoi qui est en train de se vivre. Hein, être témoin de tout ça, c'est plus important.
Je voulais rebondir moi un petit peu sur votre question. C'est, la loi est générale et heureusement qu'elle l'est parce qu'elle est obligée de mettre un cadre. C'est une loi qui, à mon sens et à notre sens, je crois, n'est pas si mal faite parce qu'elle donne des droits aux patients. C'est-à-dire qu'elle donne des droits fondamentaux de refuser les soins. Elle donne des droits fondamentaux d'être informé, des droits fondamentaux de recevoir des soins palliatifs. Elle donne des obligations aux médecins, donc des obligations de respect du patient, principalement, de ses volontés. Mais c'est une loi qui, alors j'en reviens sur l'obstination déraisonnable dont on parlait au début de soirée, c'est-à-dire que la loi va parler d'obstination déraisonnable. Et nous, ce qu'on voit en pratique, c'est que l'obstination déraisonnable est quelque chose de personnel. Et c'est comme ça que nous, on va ajuster cette loi à chaque fois à la personne qu'on a en face de nous, à la situation qu'on a en face de nous, mais garder ce cadre qui va finalement respecter le patient, respecter ses souhaits, et puis nous remettre nous dans des règles de déontologie, c'est-à-dire nous dire oui, mais en face de vous, vous avez une personne qui a son expérience, qui a son droit, qui a des choses à dire, qui a des choses à vivre, et il s'agit de sa vie à lui, et il ne s'agit pas que ce soit vous qui décidiez pour elle.
Juste un petit mot pour reparler de la sédation. Je crois qu'il faut aussi, concrètement, ça veut dire qu'on va effectivement faire une titration, ça veut dire qu'on va, avec le médecin présent, injecter un produit. On surveille l'état de vigilance du patient, c'est-à-dire qu'on sait au départ, et il le sait, à quel niveau on va s'arrêter, on a des scores de surveillance. Ça veut dire aussi que c'est pas du tout, on endort quelqu'un et on ferme la porte et on s'en va. Quelqu'un qui est sédaté, c'est trois fois plus de soins, c'est trois fois plus de présence, puisque bien sûr, on va le surveiller, bien sûr, on va lui faire ses soins, bien sûr, on va tout faire pour qu'il n'ait pas d'escarre, donc on va faire sa toilette. Enfin, pour l'équipe soignante, c'est quelque chose de très, très important. Et c'est aussi très important parce qu'il ne s'agit pas d'endormir quelqu'un, de fermer la porte et de s'en aller. Donc ce n'est pas un geste anodin et c'est énormément de soins. Donc ce n'est surtout pas un abandon.
Et ni même auprès de la famille, parce que ce temps est long pour la famille et le soutien est même à la limite renforcé auprès des proches.
Il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, et pourtant la boulangère dans le film en parle, et ça me fait penser à l'accompagnement de ma sœur, où ses enfants s'étonnaient qu'on la faisait plus manger à la fin de sa vie, et puis la perfusion, elle coulait mais vraiment tout doucement, etc. Et c'est vrai que mes neveux s'étonnaient de cela. Hein. Alors je ne sais pas, vous, dans votre pratique, comment ça... Enfin, ce problème de manger ou enfin de pas manger ou pas boire, comment ça se vit au quotidien avec les femmes?
Alors, c'est une problématique effectivement qu'on a souvent à aborder avec les patients ou avec les familles. Quand un patient ne peut plus manger, on a des solutions pour lui apporter ce qu'il faut pour qu'il puisse continuer à vivre. Et puis de temps en temps, quand on arrive dans une maladie qui est très évoluée, puisque c'est quelque chose qui arrive quand la maladie est vraiment très prépondérante, il arrive que en nourrissant les gens, on se rende compte que finalement on leur fait plus de mal que de bien. Par là, j'entends deux choses principales. C'est que parfois, effectivement, on se rend compte que c'est plus on va nourrir les gens, plus la maladie va avancer vite. Parce que le cancer, il s'agit souvent de ça, va se nourrir de ce qu'on lui apporte. Et puis parfois, et c'est ce qui est plus, le plus facile à comprendre et à entendre pour les familles, parce que c'est ce qui est le plus voyant, c'est que parfois, quand on nourrit les gens en fin de vie, il y a un certain nombre de modifications qui sont passées dans le corps qui font que, Au lieu de profiter de l'énergie qu'on lui donne, le malade va faire des complications. C'est-à-dire qu'il peut s'encombrer au niveau respiratoire, il peut faire des œdèmes, il peut faire des choses qui vont lui apporter des sources d'inconfort majeures. Dans ces cas-là, en discutant avec les familles, parce que c'est souvent les familles, les patients, eux, sont pas tellement gênés par ça. C'est-à-dire que le patient, quand il a plus faim, il a pas du tout envie qu'on lui donne à manger. Au contraire, il a en général envie qu'on le laisse tranquille. Parfois, il va nous demander un peu à manger, et puis parfois, pas du tout, mais voilà. Ces gens-là n'ont pas faim. C'est-à-dire que quand on ne mange pas, on a des sécrétions de certaines hormones, de certaines choses qui se font au niveau du corps humain, qui font qu'on ne ressent pas la faim. Donc, le patient, lui, quand il ne demande pas à manger, quand il n'a pas faim, il faut le croire. C'est la première chose. Et il faut dire aux familles de croire leur patient, c'est-à-dire leurs proches. C'est-à-dire que quand le mari, quand la femme dit « non, mais j'ai pas faim », ça sert à rien de lui donner à manger de force. Ça ne rallongera pas sa vie. Ça ne le maintiendra pas en vie. Et puis, expliquer aussi aux familles que oui, mais si on lui apporte à manger, c'est pour nous, on va le faire. Parce que c'est vrai qu'on a tous envie que nos proches continuent à manger, continuent à boire. Mais on risque plutôt de faire des complications et de lui apporter un certain nombre de choses qu'on aura du mal à soulager par derrière. Et qu'en aucun cas, on va lui apporter ni une quantité de vie, ni une qualité de vie supérieure.
Puis derrière la crainte des familles, il y a forcément... est-ce qu'on en est là? Manger, c'est symbolique. Hein, donc on ne mange plus, donc il y a cette... Qu'est-ce qui va se passer? C'est très fréquent hein, que les familles nous disent « Mais alors, s'il ne mange plus, vous allez le faire manger. » C'est arrivé il n'y a pas très longtemps, hein, monsieur, qui ne pouvait pas supporter l'idée qu'on ne donne pas à manger à son épouse. Et là, tout doucement, je lui ai dit, mais est-ce que vous avez pu imaginer que peut-être bientôt, elle ne pourrait plus se lever, elle ne pourrait plus marcher, elle ne pourrait plus manger, elle ne pourrait plus ouvrir les yeux? Et c'était pour lui inimaginable et insupportable. C'était pas supportable qu'elle meure, tout simplement. Et ça passait par la nourriture. Donc après, il y a toute cette explication, mais surtout de comprendre d'où vient cette peur. Ça veut dire que les personnes vont mourir. Là, ça prend forme, ça prend forme et ça devient insupportable.
Oui, c'est ça. Il faut bien différencier la personne qui ne peut plus manger, qui ne peut plus boire, mais qui a encore du temps devant lui et qui ne peut plus manger ou boire du fait d'une complication médicale, ou auquel cas, bien sûr, notre rôle, c'est de lui apporter ce qu'il faut pour passer cet obstacle-là et puis pour continuer. Et puis de la personne qui, malheureusement, se trouve en fin de vie, où ça ne sert à rien, d'abord, de lui apporter... Lui n'en ressent pas le besoin. Et puis, on va lui apporter finalement plus de mal que de bien pour soulager les proches et puis pour nous soulager nous en lui disant on fait quelque chose.
Et toute dernière question. J'en ai deux écrites. Une sur le au revoir. Est-ce que l'unité de soins palliatifs, vous prévenez les familles quand il est temps de dire au revoir à la personne?
Alors... Oui, quand on sent que le malade s'aggrave, on prévient les familles. C'est-à-dire qu'il n'est pas question, mais même quand on sent que le malade s'aggrave pas, à la limite, on prévient les familles. C'est-à-dire qu'un patient qui est en unité de soins palliatifs, on essaye de voir les proches le plus souvent possible pour les faire cheminer avec nous, pour les faire cheminer aux côtés de leurs proches et pour qu'ils sachent où on en est. Sauf quand le proche veut rien dire, dit ne parlez pas, quand le malade dit ne parlez pas à mes proches, auquel cas, bien sûr, on respecte ça aussi. En unité de soins palliatifs, on essaye de voir les proches le plus souvent possible, qu'ils sachent exactement où on en est, pour qu'ils puissent aussi faire leur travail de deuil après, et puis qu'ils sachent voilà, pour à peu près combien de temps. Alors, il ne s'agit pas de dire combien de temps, on ne sait jamais. Hein. On n'a jamais de... Mais parfois, on sent que ça va moins bien. Parfois, on sent qu'il y a des petites choses qui nous font dire... voilà. Et puis, on les voit, simplement, on discute avec eux et on les tient au courant. Quoi.
Une autre question encore pour vous, je pense. Est-ce qu'il y a une formation particulière de soins palliatifs au moment des études de médecine ?
Alors, il y a maintenant un tronc commun pour tous les étudiants en médecine, quelle que soit la spécialité qu'ils vont faire, qui se passe donc avant qu'on choisisse le métier qu'on fera plus tard au sein de la médecine, qui s'appelle douleur et soins palliatifs. Donc, c'est une double formation, à la fois en douleur et à la fois en soins palliatifs. Ça fait maintenant, je pense, une petite dizaine d'années que ce module-là est obligatoire. Donc, c'est une formation, effectivement, de base, alors qui peut être plus ou moins complète, mais qui donne en tout cas les différents traitements, les différentes grandes lignes des choses, et puis qui ouvre aussi à la réflexion éthique, à la discussion, et puis sur les différentes choses qui peuvent exister à l'hôpital et sur les différentes aides et modalités. Et puis, il y a des spécialités qu'on peut faire derrière. C'est-à-dire ça, c'est le tronc commun pour tous les étudiants. Et puis après, chaque étudiant peut aussi se former avec des diplômes complémentaires en fonction de son expérience, à plus ou moins grande échelle ou à plus ou moins d'heures, en fonction des situations qu'il va rencontrer et de là où il va travailler.
D'accord. Est-ce qu'il reste encore une question ?
Je reviens sur le revoir. Dans le service de l'unité de soins palliatifs, les gens peuvent venir 24 heures sur 24 à tout moment du jour et de la nuit. Donc il arrive quelquefois que les gens viennent à 3 heures, 5 heures, 2 heures du matin. Donc, ça se fait de façon naturelle. On accompagne les patients, on accompagne les familles. Les familles vivent beaucoup avec les soignants. Ils nous connaissent bien, ils nous téléphonent, ils viennent nous voir le jour, la nuit. Ils peuvent venir, ils peuvent repartir, ils peuvent revenir. On est là 24 heures sur 24. Donc, le revoir, en fait, on prévient. On ne prévient pas quelqu'un, on suit l'évolution de la maladie, on suit aussi la dégradation du proche, et puis ça se fait naturellement.
Je pense que c'est vrai chez nous, j'en reviens aussi au reste de l'hôpital, parce que c'est important aussi, c'est vrai partout, c'est-à-dire qu'en tant que soignant, je pense que ma collègue dira pareil, c'est quand on voit que les patients vont moins bien, quand on voit que ça va moins bien, bien sûr on prévient les familles, bien sûr, on les tient au courant et on essaye de les accompagner là-dedans.
Juste, enfin oui, c'est ce que je disais aussi tout à l'heure. Hein, quand on est en soins de confort, on sent qu'à un moment donné, il faut que les proches arrivent. Hein, et donc, on les prévient. Alors, des fois, bon, c'est pas toujours évident de savoir vraiment le moment clé où il faut les appeler, mais on essaie de faire au mieux. Ce qu'on constate, et c'est là où l'accompagnement est fondamental et où les équipes comme les gens de Jalmalve sont très, très importants, c'est qu'à un moment donné, enfin moi je parle pour les gens âgés, parce que c'est ceux que je côtoie, on sait que lorsqu'ils voient leurs proches, lorsqu'ils ont attendu une visite, ils peuvent à ce moment-là lâcher prise. C'est-à-dire qu'ils vont attendre de voir quelqu'un, d'avoir une visite, d'avoir un accompagnant pour pouvoir lâcher. Hein, ils vont résister, entre guillemets, longtemps, et ils attendent quelque chose. Et ce moment de le revoir est fondamental parce qu'ils peuvent dire plein de choses ou laisser passer plein de choses, communiquer pour lâcher prise. Et c'est là aussi que le rôle des accompagnants est très important parce que parfois les proches ont beaucoup de mal, ou c'est difficile, ou il y a besoin d'un tiers extérieur. Alors, ça peut être les gens de l'équipe mobile de soins palliatifs ou des gens, des associations qui vont aider à ce moment-là ce passage difficile.
Je voudrais rajouter une belle expérience.
J'accompagne en EHPAD, donc depuis plusieurs années. Et quand il y a quelqu'un qui ne va pas bien, ce sont les personnes âgées elles-mêmes qui me disent que Madame Intel ne va pas bien, elle a été à l'hôpital et que peut-être elle va mourir. Et en fait, les soignants laissent la porte ouverte de façon à ce que les personnes âgées plus valides puissent aller voir cette personne avec qui ils ont vécu pendant un an ou deux, etc. Et ça, j'ai été bouleversée et émue de voir que là, c'est la communauté, enfin, j'allais dire, qui accompagne. Donc, en fait, il y a une dynamique dans cette EHPAD qui permet aux gens, c'est des petites unités, qui permet aux gens de se connaître, de vivre ensemble un moment, puis après d'aller moins bien et de mourir. Et du coup, elles sont accompagnées par les autres personnes âgées, comme si c'était dans un village, enfin, ou dans un quartier de ville. Et ça, enfin, je voulais dire qu'il ne faut pas penser que les EHPAD sont tristes. Au contraire, il y a cet accompagnement tout naturel des gens, des familles, des résidents eux-mêmes.
Le mot de la fin ?
Je ne sais pas. J'en sais rien. Juste aussi cet au revoir. Alors, je ne sais pas si c'est dire au revoir. Je crois que là aussi, on va s'ajuster à chaque famille. Il y a des familles qui ne se sont jamais parlé. Il y a des familles qui ne se sont jamais dit « je t'aime ». Donc, on ne va pas les changer. On va essayer de favoriser le dialogue. Alors ça, c'est l'idéal, mais la vie n'est pas que idéale. Et puis, on constate quand même, notamment à l'unité, mais aussi parce que c'est le lieu qui le veut, qu'on a beaucoup de gens en situation de précarité. Donc beaucoup de gens qui sont quand même très isolés socialement. Donc là, le rôle des bénévoles est important, le rôle de l'équipe. Donc vous voyez, je crois que c'est plutôt assurer jusqu'au bout une présence humaine. Que dire forcément au revoir, je ne sais pas. Et on vit la même chose, c'est-à-dire qu'on attend un proche et puis on sent le patient qui va lâcher prise. Voilà.
Merci en tout cas pour ces explications. Docteur Mijon-Dubalet, vous souhaitiez annoncer quelques dates ?
Alors, dans le cadre des débats citoyens, il y a tout un tas de conférences hein, qui sont en train de se mettre en place. On a une date le 14 novembre, donc une conférence débat au lycée Saint-Jacques de Compostelle. Donc sur le thème, c'est la peur de mourir au grand âge, avec un conférencier philosophe qui s'appelle Didier Marthe. Et on aura donc nos collègues de Laurent Montaz de l'équipe mobile de soins palliatifs et moi, un de mes collègues, Simon Valero. Donc on parle tous des mêmes choses, hein, donc, qui vont aussi intervenir avec des soignants. On a ça. On a, dans le cadre de l'espace régional éthique s'est ouvert récemment donc, sur le Poitou-Charentes, des débats citoyens qui vont être menés sous l'égide du professeur Gilles. Alors, je n'ai pas les dates, mais ça va venir pour réfléchir à la fin de vie. On a aussi des cafés éthiques, notamment il y en a un qui est programmé le 19 novembre sur les soins de confort en EHPAD et... comment faire pour prendre en charge en fin de vie les gens en EHPAD. Et on a quatre équipes d'EHPAD qui vont intervenir donc le 19 novembre dans le cadre d'un café éthique. Voilà.
Merci. Toutes les infos sur Jalmalve Poitiers, donc à l'adresse 16 rue Alphonse Daudet. Il y a des permanences tous les mardis, 17h30, 19h. Je vous donne le numéro de téléphone. Vous trouverez toutes les infos, évidemment, sur les documents qu'on vous a donnés. 05 49 46 90 71. Vous allez pouvoir revoir le DVD sur Internet. Les adresses sont également sur les papiers qu'on vous a donnés. Et puis, vous retrouvez l'ensemble de la soirée, puisqu'elle a été enregistrée donc sur le site de l'Espace Madès France, entre autres. Je voudrais remercier l'ensemble des participants des soins palliatifs, mais également de l'association. Madame la présidente de l'association, et puis vous également, public, d'avoir été avec nous ce soir. Et je vous souhaite une très belle soirée. Et puis, ce n'est qu'un débat qui ne fait que commencer. Il y aura encore plein d'autres choses et plein de discussions. Merci beaucoup de votre attention.